Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, je suis avec Flavie. Flavie, ça la pêche ?
La patate.
La pêche ! Et aujourd'hui, nous sommes avec Christophe Beuclet et Sylvie Guillaume. Christophe, ça va la pêche ?
Ça farte, ouais.
Sylvie, ça va ?
Très bien, merci.
Au coin du feu, comme ça. C'est la première fois qu'on fait ça.
Oui, parce que le podcast précédent, je me gelais, j'avais des gants et un manteau. Cette fois, on s'est rapproché du feu.
Exactement. Et aujourd'hui, on va parler de résultats. On va parler des petites choses oubliées et du bilan que vous en dressez déjà. Il est sorti il y a combien de temps, ce jeu, quand nous enregistrons ? Sylvie Guillaume, est-ce que vous savez ? Oh, le bug ! Dès le début, première question, premier bug !
C'était il y a au moins, si ce n'est avec des années...
Absolument.
Et puis quelques mois, complètement.
Il est sorti le 6 mars 2015.
2015, oui.
Donc on en est à une année et demie bien tapée, quoi. Enfin.
D'accord. Et alors, quel est le bilan, hein ? Alors, tu me disais en préparation de ce podcast que ça allait être un podcast finalement pas très positif.
Je pense qu'il faudra relativiser parce que Sylvie me reprend sur mon pessimisme inhérent. Mais je sais pas. Je peux commencer par la conclusion en disant que voilà, on a fait des ventes et puis j'aurais espéré plus, mais voilà, c'est pas si mal que ça en fin de compte.
D'accord.
Surtout, je pense, pourquoi est-ce qu'on était négatif ? C'est parce que nous, on s'était donné un objectif qui était d'atteindre 100 ventes au bout de la première année. Et puis, on s'était dit que si on n'obtenait pas ce chiffre-là, on remettrait en cause notre façon d'avoir publié ce jeu, la façon de l'avoir vendu. Et on n'est pas arrivé aux 100 ventes au bout d'une année. Donc, c'est pour ça qu'on
Se remet en question. C'est qu'en fait, vous n'avez pas atteint l'objectif que vous aviez prévu au départ.
Pour nous-mêmes.
Voilà, nous-mêmes, oui.
D'accord.
Effectivement.
Alors.
Mais avant d'expliquer ça, il faut peut-être construire quelques éléments a priori. Est-ce que toi, tu avais des questions pour nous lancer?
Déjà, j'aimerais bien qu'on
parle. On se lance.
C'est quoi les petites choses oubliées? C'est quoi comme type de jeu? C'est quoi? Est-ce que Flavie, tu veux commenter ce jeu, dire ce que c'est?
C'est un petit bijou.
Merci Flavie.
Merci Flavie.
Mais non, mais il est trop bien. C'est un jeu où... Je suis désolée, je vais truster parce que je kiffe ce jeu. C'est un jeu où pour raconter... Une histoire d'amour qui se passe pas très bien, c'est tiré d'influences telles que Eternal Sunshine et The Spotless Mind. Les deux joueurs vont prendre des photos qu'ils vont pouvoir proposer à l'autre joueur et il va falloir trouver comment raconter l'histoire et pourquoi elle s'est mal ou bien terminée. Et moi, ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'au-delà même de l'histoire qui est construite, je trouve que c'est un tout. Je trouve que c'est un système qui fait qu'il y a un vrai côté esthétique à faire et qu'on peut pousser finalement très très loin, notamment dans l'utilisation des photos. Et côté esthétique, que vous avez poussé jusque dans, entre guillemets, le livre de jeu, qui finalement n'est pas un livre, mais qui sont des sortes de cartes postales, du coup des photos. Et il y a un côté vraiment esthétique, et puis l'histoire, les histoires à chaque fois, elles sont hyper jolies, quoi. Et du coup, je trouve ça hyper poétique, et mine de rien, très intime. Et puis c'est un jeu à deux qui est réussi, et il n'y a pas tant de jeux à deux que ça. Et celui-là, pour le coup, il est vraiment chouette.
Voilà, déjà, il faut dire que c'est un jeu qui, dans la thématique, est particulier. Parce que on va parler d'intimité, on va parler d'un couple. Ça se passe, effectivement, ça se base sur des images, des photos que l'on regarde, que l'on commente, dont on doit raconter, en fait, l'histoire. Parce qu'en fait, toute photo prise par un couple a toujours une histoire. « Ah, tu te souviens, c'est celle-là qu'on avait prise le jour où ceci, cela. » Et donc, on va être comme ça, dans la position de ce couple, qui va voir un mnémochirurgien, un chirurgien en mémoire, qui a la possibilité d'effacer des souvenirs. Et ce couple s'interroge sur, étant donné que, ça c'est mal ou bien passé, on ne sait pas encore, mais en tout cas, étant donné qu'ils rencontrent un certain nombre de problèmes, ils se posent la question de savoir s'il n'y a pas certains souvenirs à effacer. Et ce mnémochirurgien leur fait comme ça regarder des photos et leur fait raconter leur histoire de couple, finalement, à travers ces photographies. Donc, le jeu se présente sous la forme de photographies, alors de cartes postales, me semble-t-il, pour être très précis, Sylvie.
Exactement, oui. Donc, on a fait appel à une amie à nous, Virginie Stubby, qui en fait, elle fait beaucoup de photographies, puis c'était vraiment des photographies qui nous parlaient beaucoup, parce que c'est toujours des scènes de la vie quotidienne, des petites choses, des petits détails, quelque chose sur une table ou une ambiance dans un quartier. Donc, on a sélectionné des photos qu'elle avait réalisées. Et en fait, on a écrit les règles sur, voilà, sur des cartes postales. Donc, un des côtés de la carte, c'est les photos de Virginie et de l'autre, le texte du jeu. Et puis, l'idée aussi, c'était que grâce à ces photos, en fait, on a développé un exemple de partie où Christophe et moi, on a joué en utilisant ces photographies-là. Puis comme ça, ça donnait aussi tout de suite au lecteur un exemple, il comprend de quoi on parle, comment est-ce que le jeu se passe. Donc, c'est vrai que c'était là aussi pour la publication un format particulier qui nous a... Voilà, qui a aussi dicté beaucoup de choix qu'on a fait, notamment de ne pas passer par l'impression à la demande, puisque ce n'était pas possible. Et puis pour nous, c'était vraiment important qu'il y ait ce lien entre l'objet et le contenu du jeu, en fait. Voilà. Je ne sais pas, Christophe, si tu as quelque chose à ajouter.
Tu en parles mieux que moi, donc je suis content que tu sois là avec moi pour expliquer comme il faut, puis que je ne me perde pas dans les détails. Je pense que c'est très bien comme ça, oui. Et là, j'ai enfin réussi... installer ce qu'il fallait pour qu'on puisse avoir les chiffres sous les yeux si on veut passer à la publication. J'oubliais d'ailleurs, ouais, vous aviez fait un playtest en fait, Flavie et Romaric,
tout à fait,
qui avec est... nous par Skype à l'époque.
C'est ça, en fait on a joué tous les deux et puis on vous a rejoint en fait par Skype à la fin de la partie pour discuter ensemble du jeu.
Et il y avait même un incendie chez vous.
Exactement.
Enfin, chez les voisins, oui.
Chez les
vrai.
Voisins, oui, c'est juste.
On savait pas si on pourrait finir le podcast à l'époque.
C'était assez énorme. Et donc, voilà. Moi, je voulais insister là-dessus parce que c'est un jeu tout en couleurs. Ce sont des cartes postales. Oui. C'est donc un format très spécial par la thématique et par l'aspect du jeu. Et je pense que c'est bien de présenter le jeu avant d'en présenter... les chiffres, pour permettre aussi de recontextualiser les données que vous allez nous livrer. Alors, d'abord les ventes, tout le monde attend ce chiffre. Combien est-ce que vous
direct,
avez vendu
les chiffres.
Comme tu veux. Enfin,
on robe rien.
Il n'y a pas de problème.
Alors, t'es quand même précisé, donc on l'a publié.
Oui, il y a juste aussi un gros détail qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'en fait, on a tout de suite fait le pari de faire un jeu en deux langues.
Oui.
Et puis pour nous, c'était vraiment important de le faire en français et en anglais parce qu'on se rendait bien compte que dans le public francophone qui pouvait être intéressé par ce genre de jeu, il y a un nombre relativement restreint. On avait quand même aussi bien beaucoup étudié les chiffres des autres indépendants, combien ils avaient vendu. Donc on s'était dit, bon, si on veut aussi que ça vaille aussi le coup au niveau de la publication, on le traduit directement en anglais. Christophe a vécu en Irlande, donc il parle très bien anglais. Et puis, donc,
on a fait... Suisse, du coup, je pense que ça va aussi. Enfin, les Suisses, ils ont l'habitude de jongler avec plusieurs langues. Enfin...
Tout à fait, ouais. Oui, clairement. Et puis, donc, on a publié le jeu directement, tout de suite, dans les deux langues. Donc, on avait fait une commande de 200 cartes, 200 sets de jeux en français et 100 en anglais. Moi, j'espérais franchement qu'on en vendrait beaucoup en anglais. Donc, je m'étais dit, on en fait 100 au début, puis on verra. Probablement, on va très vite réimprimer.
Ah, d'accord. Donc... Quand en préparation du podcast, vous annonciez 300 exemplaires imprimés, c'était 200 en français et 100 en anglais.
Oui, absolument, oui.
Tout à fait, oui. On ne pensait pas en vendre 300 en français, hein, on pensait que c'était avec les deux langues.
Je crois que ça perd pour l'analyse qu'on va développer, c'est intéressant de le poser tout de suite. Moi, j'avais l'impression que pour deux exemplaires français vendus, on pourrait en vendre un en anglais parce que le public anglais est beaucoup plus vaste. Mais qu'on était beaucoup moins présent et intégré au tissu rouliste anglo-saxon, enfin international. Parce que en anglais, ça veut aussi dire les pays nordiques, les Italiens, les Espagnols qui achètent des jeux en anglais.
Même les Canadiens, parfois, qui peuvent acheter des PDF aussi. Vous proposiez le jeu en PDF ?
Pas tout de suite, non. Alors, on est d'abord sorti purement dans la version petite boîte avec sa collection de 12 cartes postales. Et nous avons sorti le PDF. C'était en septembre.
En septembre, ah oui.
Ouais, c'est 2-3 mois. Voilà, parce qu'on s'est dit qu'on allait. Et donc, actuellement, si on achète le jeu version papier, on obtient le PDF gratuitement avec. Et donc, si certains auditeurs ont acheté le jeu en papier et qu'ils n'ont pas reçu, parce qu'on a essayé de retrouver les adresses e-mail des gens qui nous avaient acheté le jeu, ils peuvent tout à fait nous écrire. On leur envoie avec plaisir le PDF.
Très bien.
Rattraper le coup.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que éditorialement parlant, Les Petites Choses Oubliées est un succès critique. La boîte est très bien faite, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est très bien présenté, les photos, il n'y a pas de raté, c'est très bien mis en page, c'est ce qu'on avait dit. C'est ce que tu veux dire, Flavie, quand tu dis que c'est un petit bijou?
Ce que je veux dire, c'est non seulement esthétiquement, le jeu en lui-même produit des parties qui sont absolument géniales. Ensuite, après ces parties, moi j'envisageais bien de pouvoir faire tout un travail esthétique, mais même à partir des photos qui avaient été choisies, où tu peux carrément les imprimer et réfléchir à comment tu peux mettre des choses en place. Enfin, je trouve qu'il y a tout un travail que ça amène. Donc déjà sur ce côté-là, si on veut triper sur ce côté esthétique, poétique, etc., on peut carrément pousser la partie jusque très très loin en fait. Même quand la partie à deux s'arrête, on peut pousser un travail esthétique après. Et du coup, moi c'est des trucs qui me parlent beaucoup. Et puis, à côté de ça, le jeu, quand tu l'as dans la main, t'es juste... c'est quoi cet ovni? C'est quoi ce truc trop bien? T'as le côté carte postale où tu feuillettes. Du coup, tu peux feuilleter les photos. Tu peux feuilleter les... retourner. Enfin, il y a un côté hyper intime, le fait de recevoir la carte postale et c'est le jeu qui te parle. Enfin, moi, il y a toutes ces petites choses-là qui font que... oui, c'est un petit bijou, quoi.
Pour juste reprendre ce que t'as dit, Romaric, c'est vrai que pour nous aussi, c'était une volonté. On a fait appel à des professionnels pour la relecture, pour la correction, en fait. On a demandé à un correcteur de corriger. Et puis, justement, la mise en page, c'est Virginie qui l'a faite, qui a une formation dans l'art, donc qui a aussi une idée. Pour nous, c'était vraiment une volonté de ne pas faire, nous, ouais, un truc un peu à la fraîche.
C'est ça, c'est pas un projet fait dans un garage. Il n'y a vraiment pas ce côté amateur dans les petites choses oubliées, tu sais, qu'on reproche souvent aux amateurs, c'est-à-dire mal relu, mal maquetté. Non, c'est parfait. C'est-à-dire, moi, quand j'ai reçu le jeu, je me suis dit, ça va cartonner. Les gens vont en parler, il va y avoir des photographies qui vont être faites du jeu sur Facebook. D'ailleurs, je me suis empressé de le prendre en photo, de le mettre sur Facebook et compagnie, parce que pour moi, ce qu'on appelle l'unboxing, c'est-à-dire le fait de la manière même dont le jeu était présenté, etc., était importante pour bien comprendre en fait l'ampleur de ce jeu. Christophe, je t'en prie.
Oui, juste aussi pour la relecture, donc le peu de coquilles. Il faut aussi dire qu'on a très peu de texte comparé à un jeu comme Sens.
Oui, si, ou c'est un jeu fait.
Comme Prosopopée qui fait 88 pages ou quelque chose comme ça. Donc on a aussi...
88. Ouais. Voilà. On s'amuse parce que 88, voilà.
J'embête même les toi, auditeurs de la cellule voilà, avec mes nombres en Suisse romand. Donc on s'est peut-être aussi donné...
Et Sylvie se dit, quel hypocrite, sachant que lui dit toujours 88.
Exactement.
Sauf dans les contextes professionnels où mes élèves me reprennent.
C'est ça.
Oui. Donc on s'est donné aussi un format qu'on pouvait maîtriser. Ouais. C'est ça que j'essaie de dire.
Bien sûr.
On a vraiment...
Ça n'enlève rien à la maîtrise finale. D'accord. C'est-à-dire savoir choisir aussi le format que l'on maîtrise pour maîtriser l'objet final, ça fait aussi parler des qualités du professionnel. Le professionnel fait ce qu'il peut faire et il le fait bien. Il ne fait pas... voilà. Et moi, je trouve que ce jeu, il avait toutes les qualités pour faire un carton. Et les chiffres que tu vas annoncer ne sont pas du tout à la hauteur de ce que j'avais escompté.
Un petit jingle pour le roulement de tambour. Là.
Je suis là. On va pouvoir gérer quelque chose.
Alors, le nombre de ventes
un an et demi après.
Total, sans compter les derniers PDF Epimas, dont on parlera, ce sont toutes langues confondues, que ce soit des ventes par Internet, nous en convention, ou même des boutiques tierces.
D'accord.
C'est 87 exemplaires en date du 27 décembre à peu près, de cette année 2016, enfin de l'année 2016. Voilà.
Avec comme proportion français-anglais.
Alors, ça se décompose. Ensuite, dans le total des ventes françaises, c'est 75. Oh, 75. Les sous-titres, s'il vous plaît. Et puis 12 en anglais.
12 en anglais.
Voilà.
Sachant que
il y a des francophones qui ont acheté en anglais.
Voilà.
12 en anglais. Donc autant dire vous avez rien du
Donc,
tout.
On est dans un rapport 6 francophones français pour un anglais dans les ventes totales.
Ce qui n'était pas du tout ce que vous avez
Moi j'espérais 2 pour 1. Là on est à 6 pour 1.
Moi je pensais beaucoup plus dans le sens où le public anglophone est beaucoup plus large et Christophe quand même avait participé sur les forums, il connaissait quand même un peu les gens, je pensais qu'il y aurait quand même enfin quelques personnes qui s'y intéresseraient, au moins regarder ce que c'est en dehors de la qualité du jeu, mais juste un intérêt. Mmh. Et l'intérêt notamment sur les réseaux sociaux, ça a été, enfin sur Google+, parce que c'est par ce moyen-là que Christophe communique, zéro. Zéro. Ouais. Aucune reprise, aucun intérêt. Donc voilà, on pourrait discuter que c'est la qualité du jeu, son contenu, mais en fait, ils se sont même pas, ça n'a même pas été
intéressant.
Ça aucun intérêt,
rien.
Je suis quand même assez fier de notre distinction du Indie Groundbreaker Award.
Qui est venu bien plus tard.
Effectivement, on a participé à un concours. On devait envoyer un exemplaire du jeu. On a été classé deuxième plus beau jeu de l'année 2015.
Tu m'étonnes.
Derrière Fall of Magic, ce jeu avec un parchemin à dérouler et des figurines à déplacer.
Mais là aussi, ça a correspondu
à zéro vente.
Zéro vente suite à ça.
Ouais.
À peu près. Alors c'est très difficile, mais c'était pas immédiatement les résultats annoncés 10 ventes sur internet. C'était éventuellement, je peux pas exclure que là les une ou deux ventes qu'on a fait ensuite étaient dues à ça, mais
c'était en tout cas pas. C'était pas immédiatement après. Ouais.
Mais par contre, alors la relation 2 est à 1 pour les ventes fonctionne si on prend que les ventes internet, qui sont globalement assez faibles. Par rapport aux ventes francophones, on a 16 ventes par internet, donc qu'on expédie depuis chez nous, en français, et 9 en anglais. Donc là, on est dans le à peu près 2 pour 1. Mais par rapport aux ventes totales, donc 75 ventes en français, en fait, on voit tout de suite que les ventes en convention, c'est plus de la moitié de nos ventes.
Bah oui, parce que les gens voient l'objet, et donc ils réalisent que c'est une tuerie, quoi. Il y a ça aussi, je pense. Je pense que l'objet, en fait, il joue dans le sens du succès. Et qu'en fait, malheureusement, sur Internet, on ne peut pas prendre les objets en main. On peut pas prendre les... Sur Internet, les commentaires qu'on s'attire, c'est... Putain, 30... C'est combien ? Vous le vendiez combien ?
20 francs suisses.
20 francs suisses pour des cartes postales.
Au dernier cours que j'ai vérifié, c'est 18,60 €.
On réalise pas, en fait...
Plus frais de port. C'est...
Ça va être peut-être mon moment troll. Hein. Je suis d'avance navrée. Il y a plusieurs choses qui m'énervent dans ce qu'on vient de dire, donc je vais essayer de faire un petit peu... Voilà. C'est quoi cette manie de dire quoi à ce prix-là pour ce livre-là, alors que les gens ils sont capables de mettre 50 € dans un livre, dans un gros bouquin. Enfin, c'est pas...
Dans
une carte magique.
200 € dans une carte magique, tu peux le dire.
Voilà. Et à côté de ça, enfin, le prix d'un jeu ne devrait pas être en rapport avec... Avec le format, mais avec le playtest et la réflexion qui a été mise, le travail qui a été apposé, la qualité, ça devrait être le prix du jeu, en fait. Pas se dire, je ne sais pas trop. Là, pour le coup, c'est hyper beau. Enfin, quand on achète un gros pack de cartes postales de bonne qualité dans un supermarché, ça coûte des sous. Enfin, là, je pense honnêtement, le prix d'un jeu qui a été travaillé.
Le temps de travail aussi, tout simplement. Ouais.
Le prix de ce genre de jeu, pour moi, ça devrait être 25 € à 30 €.
La rareté aussi du jeu qui joue. C'est rare, les jeux de rôle. Il n'y a pas beaucoup de clients, au final, à la fin, dans la chaîne. Donc, ça devrait coûter plus. 20 francs, ça fait combien d'euros, à peu près, 20 francs suisses ?
18,60 € au cours actuel, je dirais.
C'est pas grand-cher.
À savoir que...
18 €,
quand on calculait le prix... De 20
c'est carrément pas suffisant.
Putain, au moins 20 quoi, pour ce jeu-là,
c'est
mince. 25. Quoi. Vu le
prix,
packaging
le prix des grands
tout,
jeux, c'est 25 €, je vous le dis tout de suite. Un grand jeu se vend 25 €. Je dis ça, je dis rien.
Sens auto-promo. Mais non, mais franchement, ce jeu-là, je pense que vous l'avez pas vendu assez cher.
Oui, on a eu quand même pas mal de discussions avec d'autres auteurs indépendants sur le lancement du prix du jeu. Quand on a fixé le prix du jeu. Puis c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui nous disaient que si on augmentait, on n'allait pas le vendre, en fait.
Déjà, c'est des conneries parce que les gens, ils aiment, quand ils achètent quelque chose, ils aiment mettre un prix dedans parce qu'ils ont l'impression que le prix qu'ils y mettent correspond à la qualité qu'ils vont acheter.
Les gens achètent un prix très souvent, pas un jeu.
Ouais. Première chose. Deuxième chose, je ne sais plus ce que j'allais dire.
Preuve ?
Ah oui, les amateurs, on a tendance à dévaluer son propre travail. T'es tout seul, tu l'as fait tout seul, tu sais pas trop ce que ça vaut, du coup tu te dis « Oh, bah, c'est peut-être pas si bien que ça », et donc tu te dis « Ah, mais si je le vends trop cher, personne n'achètera. » Que dalle ! C'est pas parce que tu l'as fait,
tu l'as fait avec seulement quelques personnes et pas avec une grosse boîte derrière, que ton jeu, c'est de la merde. C'est pas parce que c'est amateur que ça doit être vendu pas cher. Ce qui doit être vendu à un prix normal, c'est juste le travail que vous avez mis dedans, c'est... Je pense qu'il faut arrêter de se flageller quand on est dans l'indépendance en se disant « Ah mais non, si je vends pas ça très cher, si je vends ça trop cher, peut-être si ça dépense les 20 euros, on m'achètera pas. » Que dalle, ça coûte au moins 20 euros ce travail-là. Au moins ça. De toute façon, vous en vendrez pas plus si le jeu est pas... Enfin, de toute évidence, c'est pas parce que le jeu est pas cher qu'on en vend plein. Donc autant vendre ça au moins le prix que ça vous a coûté, quoi.
Mais c'est vrai que nous, on a eu aussi, quand on a fixé le prix du jeu, il y a eu un événement international majeur qui a fait que, enfin, c'est pas un événement, mais le contexte économique qui a beaucoup changé parce qu'en fait, quand on a commencé de chercher les cartes, etc., on était à un taux de parité entre l'euro et le franc suisse qui était à.
Non, justement, pas le taux. C'était pas la parité encore.
Justement pas.
1,20 francs pour 1 euro.
Voilà, c'était le taux plancher, on appelait ça en Suisse. Donc, voilà, on avait
la Banque nationale suisse garantissait ce taux.
Et en fait, ce taux a chuté quand on
sans crier gare,
juste quand on a lancé le jeu. Puis on a un peu paniqué parce que ce que nous, on avait imaginé comme prix, tout à coup, valait beaucoup plus en euros. En fait, on avait imaginé 25 francs suisses, c'est ça?
On partait éventuellement sur 25 francs suisses. Et finalement, avec le taux ayant changé, on était à 1 euro pour 1 franc pendant quelques temps, au lieu de 1 franc 20. Et du coup, on s'est dit non, mais... On fixe à 20.
C'est vrai que ça nous a un petit peu stressé parce qu'on s'est dit tout à coup, on imaginait qu'un produit qui aurait coûté, je sais plus, quand on avait imaginé le truc, c'était presque, ça aurait fait 20 euros, c'est juste, hein, quelque chose comme ça. Pour 25 francs suisses, pas tout à fait, mais enfin, c'était un bon rapport. Puis tout à coup, on a vu ça, on s'est dit, oh mon Dieu, puis on a un peu paniqué, et puis voilà, on a aussi baissé.
Est-ce que s'il me semblait que ça devait être fixé plus cher à l'origine.
Et puis on voulait pas le vendre. Moi, j'avais aussi un blocage. C'est vrai, je voulais pas le vendre au même prix qu'un des livres de sens.
Oh bah ça c'est des conneries, pourquoi?
Bah ouais, pourquoi mais...
Ouais, ça c'est pas normal par exemple. Parce que en plus t'as plus de mérite parce qu'un bouquin de sens c'est qu'une partie du jeu. Alors que les petites choses oubliées c'est le jeu complet.
Voilà, alors il y a beaucoup moins de texte, il y a le...
Ouais.
Le coût de production semblerait, alors c'est loin d'être clair si c'est le cas, mais... semblerait plus bas puisqu'il y a juste moins de matière.
Mais c'est pas vrai.
Et
ça c'est pas vrai. Je peux
c'est
dire.
Un jeu pour deux joueurs qui se joue rapidement et voilà donc il y avait un peu Steph. C'est vrai que j'étais pas tout à fait objectif dans mes évaluations non plus.
On est confronté là à un souci du jeu de rôle, c'est-à-dire que techniquement on vend des parties, mais pour vendre ces parties, on vend un livre en fait, on vend un support papier. Et souvent, je trouve qu'il y a un vrai problème à pouvoir juger du prix qu'on va pouvoir faire vendre le jeu, sachant qu'en fait, on vend les parties, mais que ce que les gens vont attraper, en fait, c'est le livre, c'est les cartes postales dans votre cas. Et du coup, on a tendance à se dire, mais je sais pas, il n'y a pas énormément de pages, je peux peut-être pas. Mais en fait, c'est une connerie monumentale. Ce que vous vendez, c'est des parties, quoi. C'est pas l'ouvrage en lui-même, en fait, c'est ce qui va en tirer après, c'est ce qui va apparaître après, en fait.
Juste pour...
T'as pas de micro, donc je peux pas passer par Sylvie.
Puisqu'on est entré dans la discussion du prix, c'est vrai que là, Christophe, t'as pas encore présenté aussi le coût total, donc peut-être que les auditeurs se rendent pas compte combien, enfin 87, ça veut dire quoi en termes de bénéfices.
Oui, alors, c'est une impression... En amont, contrairement à une démarche Lulu.
Oui, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord imprimé le jeu avant de le vendre. Donc ils ont imprimé 300 exemplaires du jeu, on le rappelle, 200 en français, 100 en anglais, et ils en ont vendu 87.
C'est ça. Et en fait, donc on a dû mettre en avant pas mal de... déjà tous les prototypes, on a dû faire des essais sur les boîtes, on a dû faire des essais... qu'est-ce qu'on avait encore fait comme essai
sur les cartes, on a eu
ah oui, la manière de les monter les boîtes parce qu'on devait les monter nous-mêmes.
D'accord. Ouais.
Comment est-ce qu'on les colle pour que ça tienne? J'espère que jusqu'à maintenant on n'a rien entendu que ce soit des faits, mais on a dû faire plusieurs tests pour que ça tienne.
D'accord.
On a.
Et du coup, vous avez fait comment pour les coller? Ça m'intéresse. Désolée, là, c'est mon métier qui revient. J'ai déjà essayé de faire plein de fois tenir des putains de boîtes avec des enfants et les vôtres étiennes. Vous avez fait comment?
De la colle blanche et des pincettes. Et beaucoup de temps.
Et beaucoup de temps.
Oui, voilà.
Qu'est-ce qu'on a ? On a dû demander les bons à tirer pour vérifier le format était respecté. On a eu quelques soucis à respecter le format que l'imprimeur voulait, en fait. On a eu des tampons pour imprimer les logos sur la boîte à payer. Donc, tout ça, ça venait en amont, même les enveloppes pour envoyer. On a eu des frais de TVA, parce qu'on a fait imprimer en Italie. Et donc, à l'importation, tout ce matériel était a priori taxé. Alors, on a réussi après coup à s'en sortir. Mais voilà, donc il y a aussi les cartes de visite. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Enfin, il y a toutes sortes
de dépenses.
Dépenses en fait, ouais. Qui sont en amont. Donc, on a. Ça dépend comment.
Tu parlais aussi de la location du site internet, l'hébergement de l'imprimerie.
Oui, le nom de domaine, en fin de compte. Ça, c'est... Bon, ça, c'est pas.
C'est... Non, c'est par congru, mais.
Et ça, c'est un coût courant, puisque chaque année, on le repaye. Ouais, donc, bon, est-ce que je le compte ici ou pas ? Oui, peut-être on peut le compter. On est, en fait, voilà, d'une manière ou d'une autre, on a avancé un peu plus de 1000 euros pour le jeu, de notre poche.
Que vous n'êtes pas remboursé ?
Alors, si. Ça, c'est autre chose.
Alors, en gros, en tout, vous avez avancé 1000 euros pour l'impression du jeu ?
Ouais.
Au moins. Ça dépend, selon comment on compte, peut-être un peu plus.
Pour le correcteur aussi, on a aussi,
oui, les correcteurs.
On a aussi tenu à payer Virginie de toute façon. Donc, elle a eu un revenu qui ne dépendait pas des ventes. Hein. On lui a avancé une somme fixe.
D'accord. Voilà. Donc, 1000 euros à peu près de votre poche ?
À peu près 1000 euros. Alors là, il faut discuter du taux de change, etc. Mais bon.
C'est pas mal, c'est un coup. Moi, je pourrais dire la même chose d'un premier tirage de Sens Renaissance, à peu près, tu vois.
D'accord, ouais.
Le premier, les tout premiers, parce qu'aujourd'hui, ça me coûte nettement moins cher, pour des raisons de renégociation avec l'imprimeur.
D'accord.
Ouais. Mais à l'époque, c'était ce que ça me coûtait. Et alors ?
Bénéfice.
Ouais, du coup, si t'en as vendu... Alors attends, je vais essayer de faire un calcul rapide. Si t'en as vendu 87 et que c'est... Tu les vends à peu près à 20 euros.
On ne touche pour ainsi dire jamais 20 euros, puisque soit il y a les frais PayPal, soit il y a. On a aussi un partenariat avec. Je n'ose pas prononcer parce que j'ai oublié qu'est-ce qu'elle m'a dit.
Carib.
Donc là,
la librairie Carib à Paris qui vend nos jeux.
Oui.
Avance-le. Donc du coup,
voilà,
ça
donc
fait...
les ventes boutiques, il y a toujours un rabais, forcément.
Ouais.
Ça va de. Si c'est je crois Adrien Cahuzac en a vendu quelques-uns. Là, c'était une petite négociation entre potes, puisqu'on a vendu aussi l'agence. Et puis, la librairie, ben, je crois que ce n'est pas secret, c'est dans les 35% qu'une librairie demande de marge sur le prix de vente. Donc, on est là, oui. Mais donc, si tu fais ton calcul à la volée, tu penses que...
Vous avez dû obtenir peut-être... donc, si on compte toutes ces rognes et tout ça, je ne sais pas, ça fait... 2000 moins... Alors attends, je fais que je calcule rapidement.
Bon, on l'a 260, fait plus ou moins. Hein.
1000, je dirais 1800, quelque chose comme ça. 1800 de chiffre d'affaires.
Non, en fait, moins. Donc, on est à peu près... on s'est à peu près remboursé.
C'est tout ?
Ouais.
Vous avez gagné 1000 euros, quoi. Si on compte les rognements divers, ouais, et
parce que aussi il y a un rognement qui est pas un rognement, mais qui est aussi le fait que voilà, les bénéfices on les donne aussi à Virginie, hein. Donc en plus de la somme fixe, on a convenu avec elle
même.
Oui, parce qu'elle a fait un travail qui était vraiment très D'accord. très important pour elle. Après presque passé, je crois que c'était un mois de travail sur ça. Enfin, c'était vraiment un gros travail, donc on a aussi D'accord. partagé. Donc si tu mets tout bout à bout, nous deux, ouais, on se remboursait.
Très très bien. Ouais.
Donc on est déjà soulagés quand on a passé la barre, on s'était remboursé. C'était déjà cool. Mais...
Enfin bon, vous avez perdu du temps pour ne rien gagner, à part ça.
Et puis c'est vrai qu'on n'a pas compté, par exemple, le déplacement pour
les salons,
la convention
pour les salons,
à Lyon.
Pas, on n'a pas compté.
Ouais, pas compté l'essence, pas compté le frais du
L'hébergement, le stand.
Alors, là,
on a
eu de la chance.
On a eu de la chance. Mais...
On a été hébergé par les amis.
Qui nous avait hébergé.
Alors, ce que je voulais dire par rapport à... Tout à l'heure, j'ai gueulé un peu dans les micros par rapport au prix. Il n'y a pas de preuve. C'est-à-dire, en fait, les gens qui disent... Si vous le vendez moins cher, vous en vendrez plus. C'est pas prouvé. Il y a aucune étude de marché qui montre ça.
J'ai même un contre-argument. En fait, Christophe a pas encore annoncé cet aspect-là, mais on s'est dit bon bah alors au bout d'une année, on a dit bon maintenant on lance aussi en PDF, ouais. Parce que ça va aussi permettre de baisser drastiquement le prix.
Le prix, ouais, bien sûr.
Donc ça va aussi faire que si des gens ne l'ont pas acheté à cause du prix, ils vont pouvoir l'acheter en PDF. Et on a eu un total de
zéro vente PDF.
Zéro vente PDF.
Donc le prix est apparemment pas le facteur.
Bon, on pourra toujours rétorquer que le prix du PDF est trop élevé. Mais... voilà.
Oh,
mais...
ouais. Mon Dieu.
Alors c'est encore une fois là, il faut voir comment, parce qu'on a justement participé à l'événement Epimass. Ce sont les un anglo-saxon Epigar Ravachol, auteur de Dread, Sword Without Master et quelques autres jeux, qui depuis des années propose à des auteurs de se mettre ensemble, contribuer des jeux en PDF et les vendre par paquet, puis ensuite les ventes totales sont redistribuées
à tous les participants.
Voilà. On sait pour sûr qu'on en a vendu en tout cas 14 de cette manière-là, en D'accord. PDF. Donc,
De vente directe. Hein,
J'espère dans que vente directe, zéro. Oui.
J'espère que ces conséquences... Enfin, j'espère que la conséquence de ça, c'est que des gens vont découvrir votre jeu, vont en parler à d'autres, en fait. Que dire ?
Je pense que votre jeu... Alors, il a... je vais pousser la bouteille parce que je vois une bouteille à la place de la tête de Christophe et ça me dérange beaucoup. Ah, coucou Christophe. Je vois
Salut Flavie.
Ça va bien. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que les gens n'ont pas l'habitude de jouer à deux au jeu de rôle. Moi, je n'en connais pas beaucoup qui le font. Ça reste quand même quelque chose d'assez marginal et que du coup, ils ont peut-être vu ça en se disant « Oh, c'est une bonne idée, j'achèterai plus tard » puis c'est passé à la trappe. Puis c'est un jeu extrêmement poétique, mais du coup, qui va pas pouvoir être joué par tout un chacun avec son copain, quoi, ou avec son pote qui vient de voir pour la soirée, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a des gens, ils sont juste dit, oh, un ovni. Mais ça m'énerve quelque part un petit peu parce que je vois des gens qui sont capables de mettre des sommes astronomiques dans une réédition de Cthulhu et qui n'achètent pas ça. Maintenant, bon, chacun voit midi à sa porte. Maintenant, j'ai vu passer récemment une discussion sur Discussion de Rollis qui disait « Ah, je cherche un jeu à offrir à ma copine. » Ceux qui se posent la question, ouais, c'est un super jeu à jouer à deux, pas seulement avec votre copine. Il est vraiment à tester, quoi. Donc, n'hésitez pas. Moi, je fais de la pub, mais parce que c'est un de mes jeux préférés. Voilà.
Pour revenir rapidement aussi sur la discussion sur le prix, il y a un truc qui me revient, c'est une phrase de Guillaume Maslow que j'adore, qui dit « Comme ils ont peur d'échouer, ils préfèrent ne pas réussir ». Et il parle de cela lorsqu'il parle justement de la fixation des prix dans le secteur culturel. Il dit très souvent « Les gens qui donnent leurs œuvres, ce sont des gens en fait qui ont tellement peur que leurs œuvres ne soient pas lues ou ne soient pas appréciées, qu'ils préfèrent ne pas les vendre et donc les donner, comme ça ils sont sûrs que des gens les auront, mais parce qu'ils ont peur qu'en fixant un prix, les gens ne les achètent pas, parce qu'ils n'ont pas en fait confiance en eux, finalement. Et j'aime bien cette phrase, c'est comme ils ont peur d'échouer, ils ont peur de ne pas être lus, mais ils préfèrent ne pas réussir. Et moi, ce que j'en conclue de cette phrase, c'est qu'il faut toujours réfléchir, non pas sur vos peurs, c'est-à-dire il ne faut jamais se dire un argument en disant « j'ai peur de ne pas en vendre ». Il faut toujours se dire « combien ?» Comment est-ce que je peux réussir ? Qu'est-ce que ce serait réussir pour moi ? Et travailler sur des arguments finalement positifs.
Je pense aussi qu'il y a un débat, je suis désolée, mais un débat d'opinion aussi. Il y a des gens qui se disent la culture devrait être gratuite, je ne vais quand même pas mettre des sous dans quelque chose qui est culturel. Et du coup, quand ils vendent, ils se sentent un petit peu embêtés parce qu'ils ont ces opinions-là et qu'ils n'ont pas envie de vendre quelque chose qui leur paraît devoir être gratuit. Je serais d'accord avec eux dans un monde qui serait différent de celui qu'il est actuellement. Mais actuellement, quand on produit une œuvre, qu'elle soit au cinéma, qu'elle soit dans le jeu de rôle ou dans la littérature, etc., quand on produit quelque chose, en fait, ça coûte du temps et donc de l'argent en fait, à la personne qui le fait. Et donc, tant que le monde n'aura pas changé, il faudra donner un prix en fait, aux choses. Il faudra donner le prix du temps que ça nous a passé. Et du coup, je peux entendre des gens qui disent « je comprends parfaitement, je ne vais quand même pas, ça devrait être gratuit, ça devrait... » Oui, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et puis, tant que ce n'est pas le cas, il va quand même falloir pouvoir rémunérer des gens qui font des choses comme ça.
Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que quand on a quand même fixé le prix du jeu, on était quand même parmi la librairie des ateliers, je crois qu'on était dans les plus chers, hein, quand même. Il faut quand même soulever qu'on a déjà décidé de faire un prix qui n'était quand même pas au prorata de nombre de pages si on avait suivi les prix des autres. Hein. Donc on a déjà été dans cette direction-là. Mais c'est vrai qu'après, pour nous, je ne sais pas si on l'avait fait 5, allez, mettons 10 euros de plus,
ça changeait pas non plus le Schmilblick de manière fondamentale.
On faisait toujours pas sans vente.
On faisait toujours pas nous sans vente. C'est vrai que ben nous, enfin moi actuellement, la question que je me pose, c'est jusqu'à quel point est-ce que ça vaut la peine d'investir un temps de l'ordre du professionnel, dans le sens où vraiment on était aussi dans une période de notre vie, on avait le temps de faire ça qu'on a plus forcément
oui,
aujourd'hui.
Oui, moi je peux le dire, j'étais au chômage.
Ouais, moi j'étais entre deux eaux clairement, donc on a eu
il
le temps.
Il était au chômage.
T'en sais rien du tout par rapport à ça. Si ça se trouve, si vous l'aviez vendu plus cher, votre jeu aurait fait un shitstorm propre et net sur le fait qu'il était extrêmement cher pour des cartes postales. Il serait devenu un objet théorique très intéressant parce que ça aurait été un objet très très cher, une sorte de justement et si ça se trouve, il se serait vendu carrément plus parce qu'il aurait été sous le feu de la rampe. Vous n'en savez rien. C'est-à-dire que ça veut pas. Je dis pas que en le vendant carrément plus cher, il aurait été beaucoup plus vendu. Je veux dire qu'on n'en sait rien. C'est
oui, on a compris ça. Mais on se fixe sur les raisons négatives. Comme disait Flavie, il y avait aussi des réflexions positives. On a aussi réfléchi en positif. Quels sont nos objectifs? Et en fait, on a fait toutes sortes de simulations avec Sylvie. À partir de combien on se rembourse? Qu'est-ce qu'on espère atteindre? Et si on vend tant, est-ce que ça devient quelque chose de plus intéressant pour nous? Est-ce qu'on peut imaginer financer un deuxième jeu? Est-ce qu'on peut imaginer consacrer un peu de temps de travail à développer ça sur le long terme? On a quand même fait toutes sortes de simulations sur... si on en a imprimé 300 en tout, c'est aussi parce qu'on voulait se donner les moyens d'aller vers quelque chose à notre sens, raisonnable.
D'accord, okay. Oui, c'est aussi pour ça qu'on a choisi justement, qu'on a pris le risque d'imprimer nous. C'était dans... voilà. Certaine reconnaissance aussi que ça pouvait avoir de la valeur, que voilà, qu'on n'avait pas besoin de faire un espèce de petit truc sur Lulu. Oui. Donc, j'entends, je partage tout à fait ce que vous dites. J'ai l'impression que ça s'adresse peut-être aussi à d'autres auteurs qui ne sont pas présents aujourd'hui, alors que nous, on est déjà un peu convaincus, en fait. Je crois que c'est ça que je.
Pour ma part, ça s'adresse à l'intégralité des auteurs indépendants. N'ayez pas peur d'accepter que votre travail vaille quelque chose et que vous valiez quelque chose. Vous valez beaucoup plus que 10€ ou 12€ le jeu, quoi.
Mais c'est surtout qu'il y a des auteurs indépendants, je pense notamment à des gens comme Fabien ou Thomas, etc., qui ont déclaré propre et net et clairement qu'ils ne voulaient pas vivre du jeu de rôle. Ça ne les intéresse pas, en fait. C'est-à-dire le combat économique de la rentabilité ne les intéresse pas. Donc à partir de là, oui, ils peuvent vendre leur jeu comme ils veulent, puisque Fabien, il a un travail, et Thomas, il vit sur les acres, donc...
Et moi, je suis pas sur le combat de la rentabilité. Moi, je suis sur le combat du la création vaut quelque chose en fait. Moi, j'en ai assez d'entendre des gens qui disent c'est bon, il peut faire ça pendant ses vacances, c'est pas grave, il a un boulot à côté. Putain, créer quelque chose, c'est important. Et moi, je suis sur un combat qui n'est pas celui de la rentabilité, mais qui est sur le combat de dire une création, une œuvre. À un prix, oui, vaut quelque chose.
Très bien.
Plus tard, plus tard.
Exactement sur le combat de la rentabilité, Flavie. C'est exactement
ça. Non, justement, c'est pas tout à fait. Si. Moi, tout ce que je dis, c'est que 12€ dans le monde actuel, quand tu as produit un truc qui marche,
c'est 12 tranches de jambon.
C'est quoi. Enfin, je dis que j'en ai assez de voir des gens qui sont capables de mettre 160€ dans un jean, mais qui sont pas foutus capables de mettre 20€ dans un truc qui marche.
Parce que nous, c'est vrai qu'on avait aussi pris un comparatif pour fixer le prix qui était aussi de l'ordre le prix d'une place de cinéma. En fait, en Suisse, aller voir un film, ça coûte à peu près 20 francs. Donc on s'est dit, bon, pour 2 heures, les gens sont prêts à mettre 20 francs, ils sont prêts à le mettre pour...
je suis d'accord avec ça. À fait d'accord avec ça. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui téléchargent non-stop sur Internet et qui, du coup, ne donnent jamais d'argent aux gens qui travaillent dans le cinéma, c'est un truc qui me gave aussi. Mais bon, voilà.
Pour moi, l'indépendance, c'est la recherche d'un modèle économique qui fonctionne. Si tu veux qu'il fonctionne, ça veut dire que l'auteur doit pouvoir se rémunérer sur sa création, sur ses créations originales, sur ses jeux, sur ses œuvres. D'accord ? Donc, moi, ce que j'appelle la rentabilité, c'est le fait qu'un auteur puisse vivre décemment de son travail. C'est ça que j'appelle la rentabilité. Je ne cherche pas à faire plus en plus de profits, je ne cherche pas la croissance absolue, je ne suis pas Lagardère. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut juste que l'auteur puisse vivre de son travail. Là, on a deux auteurs, en l'occurrence Christophe et Sylvie, qui nous disent « Aujourd'hui, nous avons travaillé, nous avons donné du temps pour un projet, il n'est pas rentable, nous n'avons pas réussi à nous rémunérer, nous avons réussi à nous rembourser, et puis nous ne sommes pas rémunérés. Les heures ont été données, là. Les heures ont été données. Ils ont donné du temps, ils ont donné de leur argent pour ce jeu. Parce que même s'ils se sont remboursés sur les frais d'impression et les frais divers, ils n'ont pas payé leur travail. Ils n'ont pas payé leur travail. Eh bien, moi, ça, je dis, donc, ce jeu n'est pas rentable. Oui, voilà.
Oui, ça, c'est tout à fait clair. Alors, pour nous, c'est pour ça qu'on dit aussi que c'est un échec relatif. C'est... Parce qu'on n'a pas réussi à le rendre rentable, effectivement. Ouais.
Voilà, donc, nous, on ne cherchait pas à en vivre. Ça, c'est... Parce que tu parlais de l'argument de l'auteur qui veut en vivre. On n'en était pas du tout là. C'était, est-ce qu'éventuellement, un jour, on pourrait peut-être consacrer une demi-journée ou une journée par semaine sans que ce soit absolument ridicule, enfin, une perte monstrueuse.
Puis là, il y a aussi quelque chose qu'on a mentionné un peu en filigrane, mais qui est très important, c'est qu'on est Suisse. Et je veux dire, ça, on a toujours été conscient qu'en tant que, voilà, qu'en vivant en Suisse, on a un coût de la vie qui est très cher. Donc, si on vend, on est Suisse, mais en même temps, la majorité de nos ventes, on va les faire en France. Donc, enfin, il y a forcément un souci là. On n'espérait pas pouvoir en tirer un salaire dans le sens où. Enfin, tirer un salaire pour la Suisse, c'est juste... Je ne crois pas que ça soit envisageable dans le jeu de rôle, quoi. Clairement pas.
Christophe ? À ma connaissance, non. Ce n'est pas... je ne connais aucun Suisse qui puisse vivre exclusivement de sa conception de jeu de rôle. Et donc de la vente de ses jeux à lui.
Mais c'était au moins peut-être aussi d'effrayer la partie du travail. Enfin, pour moi, c'était ça, c'était... dire on défraye aussi peut-être la partie du travail qu'on aime moins. Parce que moi, j'adore créer, j'adore tester, j'ai adoré faire cette maquette, travailler avec Virginie, c'était vraiment super. Par contre, après, alors, tout ce qui est vente, com et tout ça, pour moi, ben, voilà, c'est vraiment du taf, ça me merde un peu. Ouais, et puis du coup, ben, tu dis, bon, ben, faire un truc qui t'emmerde pour rien, autant, voilà ce que je disais à Flavie l'autre soir, autant aller faire autre chose. Quoi, parce que...
Oui, je comprends parfaitement le problème de cette définition, c'est que du coup, alors quand ça nous emmerde pas, c'est pas du travail.
Non, c'est pas emmerde, ce que je voulais dire.
Oui, ouais, bien sûr, je viens.
Mais c'est que, quitte à le faire bénévolement, puisque c'est ce qui s'est passé dans notre cas, je ne dis pas dans ton cas ou dans les tiens, mais dans notre cas, bah, en fin de compte, on a fait du bénévolat. Donc si on dit on continue de faire du bénévolat, bah, je le fais sur des choses qui me font plaisir. C'est logique, tu ne vas pas être bénévole dans un truc qui t'emmerde. Quoi.
Moi, quand j'ai fait le choix de l'indépendance, je l'ai fait parce que je voulais en vivre. Je voulais que ça se devienne rentable, c'est-à-dire que mes heures de travail pour le jeu de rôle soient rémunérées à hauteur, c'est ce que j'avais dit, à peu près 20 euros de l'heure à peu près, que ce soit au moins égal à ce que je gagnais en se donnant des cours à domicile. J'en souviens très très bien de cette discussion. Et en fait, ce qui me pose problème dans la démarche de par exemple de Thomas et de Fabien, mais avec qui je discute très 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 franchement de ces questions aussi quand ils sont là, c'est que en fait ils disent oui, on n'a pas besoin du jeu de rôle pour vivre. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir choisi l'indépendance plutôt que d'être édité, puisque au final, bon, bah, à part bien sûr les libertés créatives et tout ça, et ce qu'on entend, et je trouve que ça fait un argument de moins pour l'indépendance. Si l'indépendance permet en plus de trouver un modèle rentable qui permette à l'auteur de vivre et pas à l'éditeur de vivre, à l'auteur de vivre, bah c'est un argument de plus pour l'indépendance. C'est pour ça que moi, j'ai mis toutes les contraintes à fond en me disant, allez, si l'indépendance, ça marche vraiment, il faut que non seulement l'auteur soit les mains libres et fasse des jeux qui soient j'allais dire dignes de lui, mais c'est pas ce que je veux dire, en accord avec lui, quoi, enfin, je sais pas comment on a, enfin, qu'il valide vraiment pleinement et entièrement, mais que aussi ces jeux puissent lui permettre de vivre. Et moi, c'est pour ça que je me suis engagé vers l'indépendance aussi, pour l'aspect économique du truc. Je me suis encore de discussions même assez, assez rudes avec Christophe sur ces questions, où on se disait, ouais, parce qu'au départ, moi, j'étais pas comme ça. Au début, j'ai commencé comme Thomas Munier à me dire, non, je vais donner mes jeux. Je te souviens, on en avait parlé.
Il y avait le premier Romaric Briand. Il y a le deuxième Romaric Briand, oui, bien sûr.
Et suite à une conversation avec toi que j'en avais. Tu m'as dit, mais putain, le combat de l'indépendance, c'est aussi un combat économique.
Oui. Ouais.
Je me souviens très bien de cette
D'ailleurs,
discussion.
On peut référer les auditeurs à ton recueil de Maelstrom, puisqu'il y a plusieurs articles dans ce recueil
fait,
qui sont du premier Romaric, la gratuité de la culture.
Tout à fait.
Il me semble que tu en parles dans un ou deux
Mais
articles.
En fait, la culture gratuite, mais c'est la nourriture qui devrait être gratuite si on veut aller par là. Je veux dire, si ce qui devrait être gratuit, c'est ce qui est fondamental pour l'être humain, ben, tout devrait être gratuit, en fait. La bouffe, le chauffage, enfin, tu vois, donc... aussitôt qu'on dit la culture devrait être gratuite, on devrait dire en fait la vie devrait être gratuite. Donc soit on vit dans un univers qui est tel qu'il est, c'est-à-dire où le libéralisme existe, il y a du capitalisme et compagnie, malheureusement on est dedans et puis voilà, et on essaye de se battre à l'intérieur du système, si j'ose dire, pour survivre. Ce qui n'empêche pas par ailleurs de se battre à l'intérieur d'un système, ça ne veut pas forcément dire le cautionner, ça ne veut pas dire être super heureux d'être dans ce système politique-là, etc. Ça ne veut pas dire perdre tout sens critique à son sujet, loin de là. Mais on s'exclut du truc. Et puis on fait autre chose. Mais bon, à ce moment-là, le problème c'est qu'il faudrait pas que la démarche de certains nuise à celle des autres. Et moi, je me demande jusqu'où, par exemple, le fait que certains auteurs indépendants puissent produire des œuvres de qualité et les donner gratuitement ne nuisent pas aux autres auteurs indépendants qui cherchent à produire des œuvres de qualité égale, mais en les faisant, en les rémunérant. C'est de ça, moi, dont j'ai peur.
Oui, mais il n'empêche que le principe même d'être indépendant, c'est de choisir...
Tout à fait.
Ils ont le droit de tester, ils ont le droit de faire leur truc.
J'ai jamais dit le contraire, mais ce qui serait dommage, c'est de se nuire les uns les autres. C'est-à-dire de... Et ça, j'ai peur. J'ai vraiment très peur de ça. Christophe.
Ouais. Moi, je ne veux pas... portée de procès, effectivement, comme dit Flavie.
Non, non.
L'indépendance, c'est la liberté totale. Bon, bah, alors qu'on essaye de les faire moins chers, plus chers.
Exactement.
Je crois pas... Je sais pas si c'est la bonne chose de faire un procès aux auteurs.
Vous pensez que ça a l'air d'un procès, ce que je viens de dire, là ?
Oh, en tant que client...
J'ai marre de mal m'exprimer.
Je pense que, en tant que client, et je dois m'inclure là aussi, hein, des fois, je me dis 10 euros pour un PDF, ouais, mais quand même... Je crois qu'en tant que consommateur de jeux de rôle, c'est plutôt là qu'on doit travailler les attentes, le réalisme de ce que ça coûte, vu le média de niche qu'on est.
Moi, ce que j'ai l'impression aussi, c'est que justement, plutôt que de comparer aux autres, notre message, en tout cas le mien, je pense que Christophe c'est quand même assez d'accord avec moi, c'est le fait que notre modèle d'indépendance, il n'a pas marché. Le nôtre, parce qu'on a, comme tu disais aussi hier, Romaric, nous on a décidé d'être 3 sur un projet. Donc on a déjà eu l'espèce d'illusion qu'on arriverait à être 3 dessus, 3 plus ou moins professionnels. Donc peut-être que déjà ça marche pas, peut-être qu'il y a d'autres types... Enfin je pense qu'on aurait aussi, nous, des questions à se poser. Quand on parlait avant de la qualité de l'objet final, bah, peut-être qu'une des réponses, ça serait de dire « Ok, on fait un cran moins, quoi. On arrive avec un objet peut-être un peu moins joli. » Enfin tout ça, c'est des choses aussi qui... Voilà, qu'on parlait des prochains jeux, si on en fait, probablement qu'on va apprendre de notre premier modèle. Donc moi, c'est pas le modèle de l'indépendance qui a échoué, c'est notre modèle de l'indépendance.
Si ouais, vous voyez ça, ça c'est très très bien. Mais bien sûr, bien sûr. Votre exemple, Flavie.
Oui, c'est pour rejoindre un peu ce qu'on disait juste un tout petit peu avant, mais c'est... Je pense que quel que soit ce que vous choisissez en tant qu'indépendant, ce qu'il faut le faire, c'est en tout état de cause, en fait. Réfléchissez à vos déterminismes. Si vous faites les choses pour de mauvaises raisons, ça ne vaut peut-être pas le coup de les faire, en fait. Si vous faites, si vous décidez de publier votre jeu gratuitement parce que vous pensez que vous ne valez pas assez pour le... Enfin, c'est pas une bonne chose, en fait. Ce qu'il faut, c'est réfléchir à qui vous êtes. C'est vrai pour beaucoup de choses, que soit, alors actuellement on parle beaucoup du féminisme, etc., mais c'est vrai pour tout ça en fait, pour tout ce que vous êtes. Réfléchissez à vos déterminismes sociaux et quel que soit ce que vous faites, faites-le en ayant réfléchi à ce qui vous convenait vraiment et pas juste à ce que d'autres personnes pensent qui pourrait vous convenir.
Moi je suis un peu embarrassé parce que je voulais pas du tout faire un procès à ceux qui ont choisi un autre modèle que le mien. D'ailleurs, comme le disait très bien Christophe tout à l'heure, j'ai été moi aussi dans ce cas de la gratuité et tout ça, donc je vais pas faire un procès. Bon, maintenant,
tu t'es fait un procès à toi-même puisque tu as changé.
Oui, parce que c'était pas le modèle qui me convenait à moi. Parce que moi, encore une fois, j'ai cette volonté d'en vivre et tout ça qui est très très particulière. Et qui est motivé par tout un tas de raisons idéologiques. Et eux, j'imagine que leurs choix éditoriaux, à Thomas et à Fabien, et je le sais, sont motivés par tout un tas de raisons idéologiques. Et donc, voilà. Et après, l'idéologie, on n'en discute pas, si j'ose dire. Enfin, les appartements, on touche à des valeurs profondes et tout, c'est extrêmement difficile d'en débattre avec des arguments. C'est des croyances, c'est des fondamentaux, etc. Donc, loin de moi, l'idée de condamner, c'est de condamner ça. Je dis juste que, effectivement, comme tu le dis, moi, j'ai pas la même idéologie qu'eux, et c'est pas un mal. Il faut que les débats se fassent. Dire, ouais. Votre modèle, vous, ça n'a pas marché. Oui, d'accord. Mais quand même, vous avez été exemplaire. Et moi, c'est ça qui me pose problème, c'est que vous avez fait les choses bien. Vous les avez fait en respectant la chaîne correctement, avec une thématique intéressante, innovante. et puis vous avez échoué. Moi, je trouve que
selon nos propres critères, ça, je crois que c'est ce qu'on doit aussi, les auditeurs doivent regarder pour eux. Le plus important, c'est qu'on doit se fixer soi-même des critères.
Ouais.
On a décidé 100 jeux en une année, on échoue par rapport à ça.
Parce que quand on voit certains rapports de publication sur les ateliers imaginaires, j'ai l'impression qu'il y a d'autres auteurs qui auraient peut-être été satisfaits.
C'est pas à nous de juger des standards de réussite des autres gens.
Ouais.
Ça, comme tu dis, chacun a ses propres objectifs, idéologies, contraintes matérielles aussi.
Ouais.
Nous, on a le fait qu'on se bat par rapport au tarif horaire suisse, toi par rapport au tarif horaire français.
Ouais.
Mais voilà, donc oui. Juste pour préciser, on définit soi-même ses conditions de réussite quelque part.
Alors, d'accord.
Nous, on les a. Peut-être qu'on peut les fixer de manière plus ou moins sévère. Mais voilà, nous, on a échoué à ce premier but de 100 ventes en une année.
En une année, oui.
On est donc en réflexion. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, quand même ?
Ça nous remet en question par rapport à ce qu'on imaginait être possible. Typiquement, voilà, nous, on se disait prendre un petit pourcentage, de travailler un peu moins pour faire ça. Bah, peut-être que ce n'est pas possible.
Non, ce n'est pas possible.
Voilà, enfin, probablement que ce n'est pas possible. Donc, c'est ça qu'on remet en question. Après, effectivement, si on part avec d'autres objectifs de base, ben, peut-être que les choses sont différentes. On t'a coupé, je crois que tu étais en train
non,
de...
Non, je réfléchis. Tu voulais intervenir, Fly ? Non ?
Non, je range mes ongles.
D'accord, ok. Je croyais que tu levais la main pour intervenir. Humainement, vous avez appris plein de choses, j'imagine, au cours de cette aventure.
Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est sûr.
Toi, t'as appris à publier un jeu, c'est bien ?
Oui.
Oh, non, des matrones.
Lala.
T'as mangé quoi ce midi? Je sais plus comment quelqu'un t'a appelé récemment sur internet. C'est troll, je sais plus quoi.
Troll Maric.
Tu es tellement de retour. Faut lui donner à manger si vous voulez qu'il troll encore plus.
Non, mais
Troll War. Il y a quelqu'un qui t'a appelé Troll War. C'est tellement bon. Ça te va tellement bien.
Je l'ai contredit sur la conclusion du podcast précédent. Donc. Là, il se rattrape.
Non, mais c'est déjà
oui,
super.
Oui, bien sûr.
Ça, non, tu trouves pas...
c'est, rappelons-le.
T'as assumé un jeu jusqu'au bout.
Oui.
Tu l'as pas juste laissé traîner sur Internet en PDF.
Ah, elle retroll.
Il faut un jingle.
Non, mais ça va, ça va.
Là, c'est bientôt le commentateur du Deathmatch qui va résonner d'un headshot.
Non mais c'est cool ça par contre, ça, je trouvais ça vraiment bien.
Oui, je suis content d'avoir publié un jeu, oui. C'était effectivement une des raisons que j'avais énoncé, j'avais fait tout un article quand j'ai fermé Silent Drift. Et à un moment, ma position était absurde, je proposais à tout le monde de publier des jeux indépendants et je ne le faisais pas moi-même vraiment. Donc,
je t'avais critiqué là-dessus dans
bien sûr,
article,
c'était tout à fait critiquable. Et puis... Bon, c'est pas pour autant que je vais rouvrir Silent Drift maintenant. Non, Fred,
maintenant que les ateliers imaginaires ferment, t'imagines le mec, il ouvre Silent Drift tranquillos.
Si ça
maintenant,
avait été un 1er avril.
Je suis de retour, je suis le Messie.
Si ça avait été un 1er avril, tu l'aurais fait.
J'aurais annoncé ça.
Oh mon dieu. Bon, moi, je suis sûr que Sylvie n'est pas étrangère au fait que t'aies publié ce jeu.
Oui, ouais. Oui, je crois qu'on a. Ça, c'était. Ok, ça nous a, entre guillemets, coûté plus cher d'être trois personnes sur le projet. Mais comme Sylvie disait, elle n'aime pas trop l'aspect vente. Moi, ça me dérange nettement moins. J'aime bien aller.
Aller en convention.
En tout cas, j'ai cette idée que j'aime bien le faire.
Parce que tu trouves que c'est un mauvais vendeur, Sylvie, c'est ça ?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Non, c'est juste qu'on parlait de convention et j'ai regardé Flavie parce qu'on a eu une grande discussion hier soir sur le fait d'aller en convention. C'est tout.
Très bien. On va tout faire. C'est
là...
convention. Allons-y. Il n'y a pas de problème.
Là, on a perdu tous les auditeurs.
Non, je pense pas. Je pense que tu viens de gagner 140 ventes de.
Non, on est une équipe complémentaire et certainement Sylvie m'a aidé à aller au bout des choses.
Oh, d'accord.
Ouais. Après, je sens déjà les gens qui disent ouais, mais Innommable, il est où ? Et
oui,
parce que Sylvie est aussi assez impliquée. Ça, c'est pas diffusé sur Internet, mais entre temps, elle est très impliquée. Et on l'a pas sorti, ça c'est pour d'autres raisons. Donc,
Et alors que c'est un jeu que vous pourriez sortir très très simplement, qui serait pas cher à imprimer et sur lequel vous pourriez gagner méga brousouf.
Absolument, parce qu'en plus, c'est une thématique qui vendrait beaucoup plus que, je pense.
Ah, parce que ça, c'est une autre de tes théories, Sylvie, dont on n'a pas eu l'occasion de parler. C'est qu'une des raisons de l'échec relatif des petites choses oubliées, c'est probablement la thématique non geek.
Oui, je pense que ça a parlé à moins de gens, ça a intéressé moins de gens, dans le sens aussi où... Enfin, c'est des gens qui me l'ont dit à moi, ils m'ont dit, mais faire du quotidien, faire... C'est bon, on le vit déjà dans notre vie, qu'est-ce que tu veux qu'on on est là pour s'amuser.
On l'avait entendu aussi pour Psychodrame à l'époque, les cordes sensibles.
Oui, il y a vraiment des gens qui m'ont dit, hein, donc j'invente pas le truc. Donc oui, je pense que sur une thématique beaucoup plus imaginaire, je pense que ça peut aussi mieux fonctionner. Ouais.
Comment vous expliquez les faits... Pardon, tu avais un truc à ajouter, Fly ?
Ouais, Trolloire, puisqu'on est parti dans Trolloire. Ça fait partie des trucs qui m'énervent un petit peu, le fait que la vie de tous les jours, on n'est pas censé être des héros, et du coup, ça ne sert à rien d'y jouer. Bah, je vais vous dire, hein, les gars et les filles qui écoutez, hein, vous êtes beaucoup plus des héros dans la vie quotidienne que dans tous les jeux imaginaires que vous allez jouer. Quand vous jouez à un magicien, vous êtes bien moins héroïque que lorsque vous vous levez tous les matins, que vous vous occupez de vos gamins, que vous allez faire votre boulot, que vous affrontez les affres de la vie, votre patron, vous êtes des héros dans la vie quotidienne et c'est, en fait, c'est pour ça que c'est intéressant d'y jouer, c'est pour essayer de s'en rendre compte à nouveau, en fait.
Et ça, c'est vraiment aussi un des objectifs du jeu, hein, de mettre de la magie dans ces moments-là, dans ces petits moments qu'on partage tous, qu'on a déjà tous vécu et qui, en fin de compte, font une grande histoire, enfin une belle histoire, en tout cas.
Ah, ça me fait penser à Là-haut, le film de Pixar.
Je vais d'ailleurs rebondir là-dessus, mais c'est un peu méta-podcast. J'ai entendu dans certains podcasts que Les petites choses oubliées, c'est un jeu où... on va jouer la tension dans un couple, leurs petites disputes. Sylvie l'explique particulièrement bien, donc je vais lui laisser la parole. C'est une possibilité du jeu, bien évidemment, mais en fait, on peut aussi le voir.
Ouais, pour moi, c'est plutôt un prétexte. Sylvie. En fait, moi, un des points de lancement de ce jeu, c'était cette volonté de recréer dans un jeu de rôle les conversations entre copines. Où on va se dire « Ah mais oui, mon mec il est trop chiant parce que le matin il a traîné sa chaussette » ou « Ah mais il a été trop chou, il a fait ça » et c'était une dimension très partage de petits moments, de petits trucs, mais qui a en fait très grande importance. Et pour moi c'est ça aussi, hein. C'est un peu une conversation comme ça en fait.
Ah ouais, c'est génial parce que j'ai pas du tout la même vision de vous que ce jeu. Je vais en apporter une troisième. Voilà. Et je fais même pas partie des créateurs. Moi j'ai trouvé que ça remettait de la poésie dans des moments où on ne la voyait plus. C'est-à-dire, oui, il laisse traîner sa chaussette. Oui, sur cette photo-là, c'est un moment où tu m'as laissé un peu seule dans la soirée, il a fallu que j'aille vers toi, te revoir, etc. Mais en fait, faut se demander quelle est la vraie problématique sur laquelle on veut insister. Moi, j'ai trouvé que ça remettait de la magie dedans parce qu'en fait, ça permettait déjà de remettre des mots sur des situations. Et à partir de là, de les imaginer telles qu'elles auraient pu être faites différemment. Et oui, c'est remettre de la magie dans le monde réel. Mais bon, ça, c'est un combat que je mène toujours. Hein.
Alors, peut-être je me suis mal exprimée. Bah, c'est vrai que pour moi, dans les conversations entre copines, c'est aussi ça. Oui, c'est d'accord. Ce côté très magique où en fait, t'es en train de parler de toi, t'es en train de parler de ton couple, t'as les yeux qui pétillent, tu vois. Ce moment
et puis même, ça peut déclencher des fous rires.
Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment... Je le vois aussi comme toi.
Donc, juste des petites questions comme ça. Comment expliquer les faibles ventes aux États-Unis ou en anglais
Expliquer, je n'ai pas les moyens de l'expliquer, je pense.
Théorie.
Qu'est-ce qu'on a fait ?
Qui a quand même participé à quelques développements, notamment sur la forge et tout ça.
C'est que les gens n'ont pas repris le message, la publication.
Est-ce que Hero Tuovinian, par exemple, en a parlé ? Est-ce qu'il y a joué ?
Par exemple, j'ai discuté de lui, notamment avec lui, pour les questions de tirage. Il m'avait averti que un jeu intimiste comme ça, à deux, un peu expérimental, ne se vendrait pas à plus de 50 exemplaires, je crois.
Et Breaking the Ice, t'avais des... parce que c'est un jeu à deux, pas intimiste comme le vôtre, mais t'avais des retours ?
Alors Breaking the Ice, oui, mais je finis juste peut-être avec Hero. Mais c'est vrai qu'une fois publié, je n'ai plus parlé, plus de retour d'Hero. Mais je ne vais pas charger Hero, personne n'a parlé de notre jeu dans le monde anglo-saxon, alors que du côté francophone. Frédéric a repris sur son blog un billet, la cellule en a parlé.
J'en ai parlé sur tous les podcasts.
Mais ça, on n'a pas eu ce, on n'était pas intégré en fin de compte. Enfin, j'étais pas si intégré que j'espérais.
Voilà, il y a pas eu.
Moi, j'ai jamais rencontré ces gens en vrai, peut-être. Je sais pas.
Comme je l'ai vécu, il y a pas eu. Hein. En fait, il aurait peut-être suffi qu'il y ait un leader d'opinion qui le prenne. Donc ça, c'était peut-être l'histoire de juste une personne qui le mette en avant, mais ça a pas été le cas. Du coup, c'est tombé un peu. En... Ouais.
Vincent Baker en aurait parlé sur son blog, t'aurais gagné le scénar, quoi.
Peut-être. Oui, peut-être. Ouais. Ou voilà. Maintenant.
Pour répondre à Flavie.
Oui, pour répondre à Flavie, effectivement, sur les ventes de Breaking the Ice.
En français, c'était une 130.
Je sais pas.
En français, mais en anglais, je sais pas.
Mais il se vend visiblement suffisamment bien pour qu'Emily ait refait une nouvelle édition.
Oui, mais depuis combien de temps il est sorti ce jeu ?
Alors, bien sûr.
Ah, voilà. C'est comme si je comparais les ventes de Sens Renaissance aux petites choses oubliées et que je riais du haut de ma montagne. Bah oui, mais seulement c'est sorti il y a 10 ans. Si ça se trouve, dans 10 ans, vous aurez fait de meilleurs résultats. Hein. Ça veut rien dire.
Ouais. Mais je pense. Donc, j'ai sous-estimé l'importance peut-être des liens personnels.
D'accord.
En vrai aussi, parce que quand on parle de Vincent, Emily, Ben Lehman, Ron Edwards, c'est tous des gens qui se rencontrent en vrai, qui sont... Vincent et Emily vivent dans la même ville.
C'est vrai que tu avais par exemple essayé quand même de faire un rapport de parti sur le forum de Ron.
Et ça n'a pas pris.
Ça n'a juste pas pris en fait. Il n'y a même pas eu de réponse vraiment...
On n'a même pas vraiment une discussion avec Ron lui-même. Maintenant, c'est vrai que Ron, j'ai l'impression qu'il s'est un peu retiré du monde du jeu de rôle pour faire plus de la bande dessinée à l'américaine.
D'accord, ouais.
Lui, je ne sais pas non plus. Ça,
mais regardez par exemple Vivien Féasson sur Perdu sous la pluie, et qu'il avait aussi publié en anglais, vendu sur les réseaux anglo-saxons et compagnie. Il a pas fait des grands succès. Hein. C'est pas un grand résultat.
D'accord. Mais lui, il ne connaît pas ces gens en vrai. Ouais.
Il disait que c'était extrêmement difficile, étant donné que le marché américain est inondé de jeux, de juste de percer et de se faire un nom, enfin d'exister, voilà. Juste exister, c'est difficile, quoi.
D'où je pense l'importance de passer par les leaders d'opinion, comme Sylvie disait.
Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y en a tellement aussi que pourquoi le tien ? Enfin, je pense que tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui leur dit « Ah, ce jeu-là, il est bien ouais. », bah t'en as tellement. Mais moi, je suis la première. Hein. Quand tu regardes tous les jeux qu'il y a, tu t'achètes pas tout. T'achètes certains quand on t'a dit « Ah, celui-là, il est particulièrement bien ».
C'est pour ça que comme c'est un réseau qui est assez organique où les gens... n'ont pas vraiment de grands médias desquels s'instruire, suivre et compagnie, je pense que forcément la vente de jeux de rôle se fait sur le long terme. Et donc votre échec relatif, il s'explique par le fait que vous vous êtes fixé sur ce délire fou de vendre ce jeu sur une année. Ça n'a pas de sens.
Comment ça, le vendre sur une année ?
C'est-à-dire, en gros, de
fixer
100 jeux en une année, ça n'a pas de sens. Je le dis
non, ce n'est pas un délire, remarque. Ce n'est pas un délire.
Parce que sinon, après, on avait aussi très peur de tomber dans cette espèce de... Enfin, pour moi, qui est un petit peu... voilà, où tu te mets pas d'objectif, puis t'es content de tout. Je pense qu'il s'est vraiment... Il fallait se fixer quelque chose. Et sans... On a regardé...
C'est l'année, en fait, qui me pose problème. C'est le fait de vous fixer ça sur une année,
mais
parce que...
Mais à ce moment-là, si on le disait sur 10 ans, ça, en termes humains, ça n'a plus de sens non plus. Parce que, je veux dire, il faut bien prendre des décisions. Les décisions professionnelles, notamment, il faut les prendre rapidement. Donc, une année, on a baissé ce qu'on imaginait. On n'a pas dit 300 en une année.
Pour moi, c'est ça le problème.
On n'a pas eu peur d'échouer, en fait. On s'est donné un vrai objectif.
Non, alors, je ne sais pas ce que je dis.
Je pense pas que c'était complètement tiré par les cheveux.
Mais moi, je pense que si.
Il y a des gens qui y arrivent à 100 ventes en une année.
Morgane, elle a fait plus... Elle Morgane, a combien 200 ventes en une année ? Quelque chose comme 300 ?
Je ne sais pas où elle en est exactement, mais en tout cas, plus de 200 depuis la publication de Chrysopée, elle y est à 100 ventes en une année. Oui. Alors oui, je crois que ta vision, c'est que elle, c'est un succès critique.
Oui, je pense.
Mais pour nous, si c'est ça les succès critiques, alors on doit tout de suite arrêter notre objectif à nous.
C'est ça.
Vous n'avez pas la même présence sur les réseaux. D'abord, vous n'avez pas la même présence sur les réseaux rôlistes francophones que Morgane. Déjà pour nettement moins de podcasts de la cellule.
C'est pas pour se comparer à Morgane.
On ne se compare pas à elle. C'était juste pour dire que ça peut être possible. Donc,
oui,
justement.
C'est possible. Alors, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que pour des jeux comme ça, qui sont des jeux intimistes, qui se transmettent sur le bouche à oreille, vous ne pouvez pas compter sur un boom de la sortie. Il n'y a pas de blast. Il n'y a pas d'effet de blast, comme dirait Nicolas Sarkozy. Sur ce genre de truc, ça ne fonctionne pas. C'est la longue traîne qui va se faire, en fait. c'est sur le long terme, les gens vont en parler, ils vont dire oh t'as déjà joué une fois.
Pourtant
j'essaye de prendre l'accent suisse pour les convaincre.
Nos ventes elles se sont elles...
Vous avez déjà testé une fois le jeu de l'impromptu?
Nos ventes sont en blast. On a vendu le plus de jeux dès le début.
Dès le début.
En convention, tout le monde nous l'achetait.
Oui, mais ça va continuer. Vous allez continuer à en écouler sur le long terme.
On n'écoute plus.
Heureusement qu'il y a Karib.
Karib qui fait le gros des ventes. C'est vraiment super le travail qu'ils font. Parce que nous, on ne vend rien.
D'accord, oui.
Il n'y a pas de langue... Enfin, il y a une longue traîne, mais bon...
C'est aussi pour ça qu'on a attendu, qu'on n'a pas tout de suite publié les chiffres après une année. C'était un objectif pour nous, on ne l'a pas dit, là, maintenant.
Moi, ça, c'est quelque chose que je n'observe pas dans mon cas. Moi, c'est l'inverse, en fait. C'est sur le long terme, en fait. Plus ça va, mieux ça va, parce que tu as un catalogue qui augmente et on n'a pas du tout le même retour là-dessus. Ouais. Enfin, bon, bref,
c'est pas mon bilan,
c'est le vôtre.
Mais alors, ton point, c'était de dire que c'était illusoire de fixer ça.
Ouais. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, le jeu, il faut voir sur le long terme, en fait. Sur le long terme, si le jeu va... Si ça se trouve, je prends par exemple l'exemple du Val. Quand le Val est sorti, j'en ai vendu que dalle. Et puis, plus ça va, plus j'en ai vendu. Et puis, il y a un moment donné où le bouche à oreille s'est fait. Et puis, un an et demi après, je ne sais plus combien, pof, un été de folie où j'en ai vendu, mais par paquet, quoi. Il y en avait un par jour qui partait, quoi. Pourquoi ? J'en sais rien. Parce qu'il y a eu un moment donné un effet de bouche à oreille. Les gens arrivaient à l'été, il faisait beau. Les gens avaient tous le Val chez eux. Ils s'étaient dit, putain, il faut que je trouve un pote pour jouer à ça. Mais ils n'avaient pas trouvé le pote à ce moment-là. Et puis un an et demi plus tard, quand le soleil est revenu, paf, tout le monde s'est dit, allez, on va jouer au Val. Ça, trop bizarre. Si ça se trouve, vous allez avoir cet effet-là.
Mais du coup, là, ce critère qu'on s'était posé, c'était aussi pour des raisons personnelles. Dans le sens
d'accord,
où,
bien sûr.
Justement, nous, on peut pas passer 5 ans à essayer.
À attendre,
dire on prend du temps pour ça, mais on ne sait pas. C'était pour ça aussi.
Bien sûr, bien sûr. Non, je l'entends parfaitement. Pourquoi est-ce que le jeu n'a pas rencontré davantage de succès sur les réseaux, sur Internet? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu davantage de... Ça, vous avez une idée là-dessus?
Fait. On l'a pas fait, hein.
Moi j'ai la réponse, hein. Faut mettre des bébés chats.
Mais oui, c'est ça. De nouveau, on retombe sur nos limites personnelles dans le sens où ni Christophe ni moi n'avons de compte Facebook, par exemple. On a supprimé nos comptes il y a plusieurs années.
Ouais.
Donc c'est pas nous qui allions le faire. Et puis nous, moi en tout cas, j'ai pas envie de devoir m'exposer sur les réseaux sociaux de manière personnelle pour le jeu. J'aime le jeu de rôle, mais pas à ce point.
D'accord, ok. Très bien.
Et encore une fois, c'est pas un jeu dont on parle. Vincent Baker utilisait, j'avais trouvé très drôle, il disait « Ouais, je sais bien, moi, mon Dogs in the Vineyard, il y a tout le monde qu'on parle, et puis le Mille et une nuits de mon épouse, personne n'en parle. Pourtant, c'est un très bon jeu aussi. » Et puis je dis « ça passait ma femme. » Puis en continuant dans la conversation, il se dit « Ouais, c'est vrai que quand tu joues à Dogs in the Vineyard, à un moment, tu vas te retrouver à jouer un personnage qui abat une femme enceinte et c'est horrible. Et puis tu vas devoir aller expier ça sur Internet et parler « Ah, au secours, j'ai fait un truc horrible hier soir dans ma partie. Ouais. C'était complètement dégueulasse. Ah, mais non. » Et puis tout
on
ça.
On en parle, quoi.
Et puis, mille et une nuits, tu racontes des contes. Il n'y a rien de choquant. C'est bon. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Donc, et je pense aussi que notre jeu...
C'est
peut-être un c'est pas un jeu dont on peut faire plat, surtout que beaucoup de gens le voient comme quelque chose de très personnel, ce jeu.
Donc ils vont pas l'échanger sur leur partie.
Mais ils vont pas parler de... Alors si déjà ils le voient comme un jeu où ils s'exposent, ils vont certainement pas en parler sur les réseaux.
Mais après, on a eu quand même... je pars un petit peu en corner, mais ça me fait penser au fait qu'on a eu quand même... C'est peut-être ça, moi, qui m'a le plus touchée. On a eu des retours de personnes qui ne faisaient pas de jeu de rôle, notamment parmi mes amis, personnes qui n'avaient jamais joué à un jeu de rôle, qui ont testé notre jeu et qui ont vraiment adoré, qui nous ont fait des retours super positifs et tout. Mais je ne vois pas pourquoi elles seraient allées en parler plus loin. Je crois que c'est ça, c'est que ça leur a fait plaisir. C'était un bon moment, mais c'était compliqué peut-être à partager aussi. Elles l'ont fait parce que je suis leur amie, mais sinon, non, pas forcément en public.
Okay. En tout cas, il n'y a pas une culture de on va raconter une tranche de vie sur Internet alors que j'ai fait un acte d'ultra-violence. C'est un truc qui se retrouve dans la communauté geek au sens large, quoi. Enfin,
sur Facebook, je trouve que les gens ils racontent beaucoup des tranches de vie sur Internet, hein.
Ils prennent en photo leur repas.
peut-être que les petites choses oubliées auraient été un
tranche de vie,
un sujet très 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 bon pour Facebook. Peut-être que c'est Google Plus aussi votre problème là. C'était peut-être pas le bon réseau pour parler de ce jeu.
Les auteurs américains sont très présents sur Google Plus.
Peut-être.
C'était aussi ça. Mais
dans quel cas de nouveau on arrive à voilà, on y a réfléchi puis on a décidé clairement que si ça devait nous coûter quelques ventes, ça nous coûterait quelques ventes, mais qu'on ne voulait pas retourner sur Facebook.
Mais oui.
Ça, on assume pleinement notre choix, notre erreur.
Est-ce que vous avez été sur Facebook autrefois, à une époque ?
Oui.
Et vous avez décidé de vous en tirer ?
Oui.
Absolument.
Pour quelle raison ?
Ça n'a rien à voir avec le jeu de rôle. Hein. C'est la politique Facebook. Quoi.
Ouais.
D'une part, qu'est-ce qu'elle fait avec nos données ? On pourrait peut-être aussi se poser la question pour Google+. Et puis après, moi ça me prenait beaucoup de temps, enfin ça me mettait dans des situations que j'appréciais pas. Puis...
D'accord.
Et moi c'était plutôt l'aspect mélange de différents genres qui me convenait pas, dans le sens où Facebook c'était pour moi, je le voyais, il y avait la famille, il y avait les professionnels, enfin les études, il y avait les amis, puis enfin pour moi je trouvais que c'était compliqué à vivre, donc.
Ouais, non mais carrément intéressant. C'est intéressant aussi de savoir pourquoi est-ce que comment les réseaux sociaux aussi influencent le travail aujourd'hui d'auteurs indépendants. Choisir les bons réseaux pour parler des bonnes choses, les réseaux adaptés, pardon, pour parler des projets. Là, en l'occurrence, pour les petites choses oubliées, je me demande si un réseau ou peut-être les images ont de l'impact, on peut liker, distribuer des photos.
C'est du boulot en plus.
Hein. Voilà.
Je sais.
Et donc, du coup, tu as ta rentabilité, elle chute aussi. Enfin, si tu dois encore y passer des heures à... Voilà, puis c'est du temps qu'on avait, je crois pas. Je pense qu'on n'avait pas.
Ouais. Ça aussi, les limites peut-être de l'indépendance. Ouais. Ni Sylvie, ni moi, ni Virginie d'ailleurs, je pense.
Ouais.
On avait cette facilité, cette envie de
c'est
faire une présence.
C'est compétence. Je pense qu'il nous manque là clairement un bout de compétence à nous. Et puis,
d'avoir une présence internet pertinente.
Tu peux être un bon auteur peut-être, ou un bon. Voilà, mais t'as pas forcément toute la. La palette des choses, puis la communication, je pense clairement, c'est pas notre fort. Ouais.
D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises ? Est-ce que vous avez envie de refaire un jeu suite à ça ? On essaie le bilan, est-ce que vous dites « ouais, ça me motive à refaire du jeu » ou alors non, vous êtes plutôt en mode « franchement, on est déçus, on n'a pas envie d'y retourner ». Quelle conclusion vous tirez de ça ? Sachant que c'est une photographie aujourd'hui, à un instant T. C'est pas votre vous n'allez pas annoncer ici votre décision définitive.
Pour moi, clairement, j'ai vraiment adoré le fait de développer le jeu et de créer l'objet. Donc ça, c'est quelque chose que je me vois bien refaire, clairement.
Tu aimes
ça me fait
développer
envie.
Des jeux ?
Ouais, j'aime faire ça. Après, comme je l'ai déjà dit avant, pas sous la même forme. Je suis pas sûre que j'ai envie de nouveau de refaire des conventions, passer des heures pour vendre 2-3 exemplaires. Celui-là, je sais pas, mais le développement de jeu, oui, moi, ça me plaît. Mais il faut aussi peut-être qu'on trouve un modèle où on arrive à faire ça de manière beaucoup plus rationnelle en termes de temps. Mmh. Je suis pas sûre que je vois pas dans les prochaines années un temps pareil. Et puis, l'autre chose que moi, je voudrais plus refaire, c'est mêler quelqu'un d'autre que nous deux professionnellement à ça, vu les retombées.
Ouais.
Moi, voilà, non. Ça pas, ça clairement pas.
D'accord. Christophe ?
Voilà, je crois que ça résume assez bien. Moi, je voudrais peut-être ajouter, peut-être le formuler autrement, ça prendra le temps que ça prendra maintenant. Je vais plus me mettre la pression comme un temps, j'étais là, mais il faut que je finisse Innommable ou il faut qu'on y aille avec la publication des petites choses oubliées. Peut-être que de temps en temps, j'écrirai un peu quelque chose, Sylvie écrira quelque chose et puis... On aura une fois un PDF, peut-être pas. Enfin, pour l'instant, je me stresse plus avec ça. Puis on verra, peut-être ça changera, comme tu disais, c'est un instantané, mais on va voir.
D'accord. Flavie ?
Pour les gens, là je lance un appel. Ces gens-là, ils ont fait un de mes jeux préférés. Et ils risquent de plus jamais en faire. Donc vous sortez les doigts, vous prenez l'argent que Mémé vous a offert pour Noël et vous vous arrangez pour que ces deux-là, ils me refassent un jeu, s'il vous plaît. Merci.
Mais non, faut pas avoir pitié de nous. C'est pas. Alors c'est
pas
du
pitié,
tout le but.
C'est pitié de moi, merde. Ah,
vous savez, oui, ayons un putain pitié de Flavie.
moi c'est un peu ça que ça m'inspire votre bilan, hein.
Quoi ?
Ce que vient de dire Flavie, c'est-à-dire que ça m'inspire beaucoup de détresse.
Mais de la
parce
détresse.
Que attends, mais je t'explique. Pas pour vous. Ah. Pas pour vous, Christophe, mais je sais pas, pour la situation actuelle. Enfin, sur les réseaux, moi, il y a un truc qui m'a inspiré beaucoup de détresse ces dernières années, dont je ne cesse de parler dans l'intimité, et puis que là, je vais partager avec vous dans ce podcast. Non, pas troll war, pas troll war. C'est... Puis j'en ai marre aussi que tous mes coups de gueule soient passés sous l'aspect troll. C'est pas du troll ce que je fais. J'essaie
de toute façon, ce podcast,
clairement.
Il est foutu, hein. T'as ouais, le troll du podcast.
Ouais, là. Ok, bon, je non, comprends pas que mes posts Facebook sur mes godasses, ou alors que les bébés chats de Flavie, ou que les renards que Flavie a postés sur Internet fassent 38 likes et 250 000 commentaires, et que quand on poste un truc du style « Vadémécom va sortir, c'est un jeu qui parle de ça », on fasse 7 likes et 0 commentaire. Je trouve ça déprimant, c'est-à-dire que si on est là, aujourd'hui les réseaux sociaux sont notre seule manière de communiquer. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui n'utilisent même plus Google. Ils vont directement sur leur Facebook le matin, ils regardent les articles que leurs amis ont postés et ils y vont, quoi. Et c'est comme ça qu'ils explorent Internet. Depuis Facebook, on n'utilise même plus Google. Donc les réseaux sociaux sont là, c'est une réalité. Je veux dire, il faut travailler avec. Mais alors, s'il faut publier des photos de godasses et des photos de chats pour faire des likes et que en fait les jeux de rôle intéressants, innovants, bah, vous les likez pas et vous les aimez pas et vous les commentez pas, bah, moi je suis auteur de jeux, c'est la détresse que je ressens. C'est de la détresse, c'est au secours. Si vraiment, arrêtez de liker des trucs, des boobs et des conneries comme ça et des pubs. Mais non, mais sérieusement, c'est ça Facebook aujourd'hui, mais Christophe.
Je sais pas.
Ou alors des trolls ou des machins. Et je sais pas quoi. Enfin, achetez des jeux, discutez des jeux que vous aimez sur Internet. Faites. Je sais pas. Ça me met en colère. Moi, les résultats que vous annoncez là. Ils me mettent en colère.
Mais il ne faut pas être fâché, remarque.
Mais si, il faut se fâcher. Il faut que les auditeurs qui nous écoutent là, ici, ils réalisent aussi que chacun d'entre eux a une responsabilité dans ce qui se passe sur Internet. On est tous responsables de ce qu'on achète dans les supermarchés. Et ce n'est pas vous, les deux végétariens, là, à qui je vais apprendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que vous faites à travers... C'est-à-dire que vous avez compris qu'à travers vos achats, à travers votre mode de consommation, vous influencez la politique, le monde économique dans lequel vous vivez. C'est vrai
oui,
ou c'est
non,
faux?
Non, mais bien sûr que c'est vrai. Sur ça, oui, c'est vrai.
Donc là, tout ce que j'invite les auditeurs à réaliser, c'est ça. C'est que la façon dont on like, la façon dont on consomme, la façon dont on pirate aussi les choses sur Internet, pirate, eh ben, je veux dire, c'est important aussi. C'est-à-dire que, et moi, ça me navre de voir qu'aujourd'hui, voilà, sur Facebook, les algorithmes encouragent les boobs et les chats et vidéos de chats de merde plutôt que l'impromptu et les petites choses oubliées. Voilà. Et c'est...
Mais ça entre... C'est-à-dire aussi parce que ça n'entre pas dans l'esprit des réseaux sociaux. Quand on annonce la sortie d'un jeu, qu'est-ce que tu veux que les gens commentent? Ah bah ouais. Alors que les petits chats, ils peuvent dire « Ah ouais, moi je trouve ça trop chou, ah bah tiens, voilà une autre. »
Parce que moi, pour moi, il y a aussi quand même là, dans cette discussion, une piste dont on n'a pas parlé, c'est que je pense que, comme l'avait aussi beaucoup souligné Flavie au début, je pense que LPCO, il gagnerait à être en physique, à être en exemplaire physique. Donc je pense que les réseaux sociaux, c'est un aspect. Mais voilà, ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'on trouve des moyens de mettre cet objet-là dans des endroits où les gens le voient, le touchent, le testent. Puis c'est vrai aussi que je pense que c'est un jeu qui pourrait vraiment s'adresser à un public autre. Puis ça, Caribe, ils font vraiment un super travail parce que voilà, il est visible, ils peuvent l'expliquer. Puis c'est vrai que ça, en tant qu'indépendant, c'est aussi très difficile. Et pour moi, c'était aussi une des difficultés, c'est que comment est-ce qu'on pourrait le mettre en avant,
maintenant que vous êtes remboursé, si vraiment vous avez perdu tout espoir, est-ce qu'un truc qui pourrait être marrant, c'est de l'oublier justement quelque part, l'oublier dans un train, j'imagine des stocks qui restent à la maison, oui, là, qui font rien, ça se trouve vous dites et ça serait peut-être cool de le laisser, de l'oublier justement, de laisser ce truc traîner et de voir comment ça réagit.
Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. En plus, j'ai jamais pensé, mais c'est vrai que dans notre ville, on a des boîtes d'échange, dans les villes dans lesquelles on travaille aussi, ça serait peut-être une idée de le mettre dans une boîte d'échange, l'offrir en fait. Oui.
Il y a un truc d'art contemporain que j'avais lu il y a maintenant 14 ans, où il y avait ce genre de choses-là, et je pense que ça serait très
très raccord avec ce que vous avez fait, d'oublier les petites choses oubliées pour qu'ils puissent ne pas être oubliés. Enfin, il y a de toute façon, quand je dis que cette œuvre-là me touche, c'est parce qu'il y a vraiment tout un travail esthétique, même du, bah, dans de l'événementiel comme ça, ou dans vraiment, il y a un truc à faire pour. Vous avez créé un truc incroyable et atypique, et qu'il ait marché ou pas, je pense qu'il y a vraiment. Une démarche que vous pouvez continuer dessus, en fait. Mais complètement différente, je veux dire. Là on parle vraiment d'une démarche esthétique.
Mmh. Ouais. Mais est-ce que ça, c'est une réponse à la situation économique, au bilan économique, ou...
Non, je ne sais pas, c'est une proposition d'ouverture pour le destin des stocks qu'il vous reste. Si vraiment vous pensez que vous n'en vendrez plus...
Ah, on n'a jamais dit ça. Hein.
Non, mais voilà, c'est à un moment donné de se dire, une fois que vous en aurez... Parce que non, mais tu vois, tu peux te dire aussi, bon voilà, dans 2 ans, j'aurais peut-être plus envie non plus de vendre les petites choses oubliées. Donc du coup, ça veut dire que, mettons, imaginons, dans 2 ans, tu n'as plus envie de vendre ce truc, il reste chez toi, t'en fais quoi ? Et là, je te proposais, je te disais, bah, pourquoi pas l'oublier à droite à gauche, dans des trains, dans des...
Ah, d'accord. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire, de laisser, en fait, traîner quelque part. Tiens, des petites... Et puis c'est marrant, ce serait rigolo, parce que les gens se diraient, tiens, il y a quelqu'un qui a oublié un truc, là. Il le prend, puis ça s'appelle les petites choses oubliées. Tu vois ce que je veux dire ?
Tout à fait.
C'est ça que je veux dire. Le laisser à des endroits un peu stratégiques, tu vois.
Mais stratégique, bah, tu vois, vue de quoi ? En vue de le...
En vue juste de laisser...
De le distribuer.
Ouais, de le distribuer, ouais, c'est ouais. Ça, exactement. De laisser quelqu'un le découvrir par lui-même sans qu'il soit rôliste ou quoi. Tu sais pas à qui tu le donnes. Une grande problématique qu'on a quand on est auteur indépendant, c'est comment toucher ces gens qui ne sont pas informés du jeu de rôle. Qui soit font du jeu de rôle depuis des années mais ne suivent pas l'actualité, soit ne font pas du tout de jeu de rôle mais pourraient potentiellement en faire et sont intéressés par ça. Soit tout des gens que le jeu de rôle, a priori, qu'ils ne connaissent pas, que ça n'intéresse pas et compagnie. Comment faire en sorte que ces gens, ils tombent tôt ou tard, nez à nez, avec nos œuvres ? C'est ça, c'est une des questions essentielles.
Oui, c'est sûr.
Alors avec ça, c'est le métier de l'éditeur. Hein.
Comment
Troll.
Ça ?
Ah, voilà, merci Sylvie.
Comment ça ?
Oui, c'est oui,
ça
oui.
Ça voulait dire la main.
Tu voulais troller encore ?
Mais oui, je voulais troller aussi. Ben. Non, mais c'est encore une compétence extrêmement difficile quand on est, enfin, à maîtriser. Comment adresser le bon public ? Ben, c'est un des arguments des maisons d'édition, c'est qu'elles savent, elles ont un public.
Ah, déjà, ça, c'est plutôt les distributeurs qui.
Ouais. Maisons d'édition, elles sont en lien avec les distributeurs. Mais...
Voilà, ouais.
Donc ça, c'est vrai. C'est...
Mais oui, mais c'est vrai que voilà, c'est ça que ça m'inspire aussi, ce bilan. Et puis, beaucoup d'inquiétude pour le modèle de l'indépendance, quand même. Même si vous dites, oui, c'est notre modèle ici qui a échoué et compagnie, moi qui ai partagé avec Christophe beaucoup de ses vues depuis le début que je travaille dans ce domaine, j'ai partagé énormément des vues de Christophe sur l'indépendance, de voir que lui, ça ne fonctionne pas pour lui, ben, ça m'inquiète pour moi. Tout simplement, c'est-à-dire que je me dis, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir, sachant qu'avec Christophe, on en discute souvent. Bon, moi, on dit, oui, ça, tout va bien et tout ça, mais tout va bien pourquoi ? Parce que j'ai la chance d'être propriétaire de ma maison. Et si j'avais le coût de la vie que vous avez en Suisse ou à Paris ou que sais-je, je ne pourrais pas vivre de mon métier de... Parce que c'est 1800, un trimestre en moyenne, Romaric Briand, c'est 1800 euros de chiffre d'affaires, un trimestre.
De chiffre d'affaires, donc chiffre pas de bénéfice.
Pas de bénéfice. Vous vous rendez compte ? Donc ça veut dire qu'en gros, je vis... Mais attention, moi je marge beaucoup. Hein. Encore une fois, je le répète, un Val, c'est 3,90€ à imprimer, c'est vendu 20€.
Et Sens ?
Sens, c'est... un Sens Renaissance, c'est 7€ à imprimer, plus 2€ de valeur, à peu près 9€ d'impression, c'est vendu 25. J'ai d'accord, des belles marges. Hein. Donc,
ouais. Elles se sont améliorées avec le temps, on est d'accord.
Oui, elles se sont tout à fait améliorées avec le temps, grâce à mes négociations avec mon imprimeur. Parce que mon imprimeur, voyant que mon activité se soutenait, que je vendais des livres, que ça marchait bien, j'ai pu renégocier avec lui les prix en disant « Attends, bonhomme, je travaille avec toi parce que tu habites à Saint-Malo, tu es proche de chez moi et tout, mais si je passais par l'Italie, ce serait différent, machin truc. » Et au final, il a été assez sensible. Puis surtout, il a été sensible à cet argument que moi, je lui suis hyper fidèle et je paye rubis sur l'ongle systématiquement, je le paye en heures. Enfin, et donc, du coup, il a dit « Ok, je fais un geste et tout. » Et ça marche très, très bien. Et maintenant, enfin, tu vois, du coup, quand je parle de chiffre d'affaires, indirectement, je parle quand même aussi de pas force. Enfin, disons que mes bénéfices ne sont pas très loin finalement de mes chiffres d'affaires. Et là, je vais peut-être encore changer de statut très bientôt, et ça va me permettre encore de déduire certains frais de fonctionnement et donc d'avoir en plus des abattements fiscaux et compagnie. Donc, vous savez, voilà. Mais c'est très peu. Quand bien même, allez, mettons, ça fait 1000 euros par trimestre de bénéfices. Ben, wouhou, superbe, superbe. Alors,
ça paye même pas un tiers de notre loyer.
Voilà, c'est ça. Donc là, il y a le modèle de l'indépendance aussi. C'est-à-dire que moi, ce que ça m'inspire aussi comme commentaire, ce bilan des petites choses oubliées, c'est est-ce que c'est est-ce que oui ou non l'indépendance est un bon modèle? Est-ce que c'est un bon modèle?
Bon, peut-être ici, on doit carrément se poser la question, parce qu'on a déjà critiqué les autres modèles, parce que les auteurs touchaient 10% à tout casser sur le prix de vente du jeu.
Ouais, c'était pire.
Donc on a déjà tout fait ces réflexions-là.
Ouais.
C'est peut-être une critique du marché, hein, ouais, surtout qu'on fait. Ouais. Mais en même temps, après, il ne faut pas se laisser abattre. Nous, on rapporte notre expérience, et je remercie la cellule de diffuser ces expériences, parce que ça permet du coup de réfléchir avec à ce qui est possible ou pas, et peut-être de trouver d'autres voies qui seraient peut-être plus raisonnables.
Tout à fait. Mais tu vois, la voie, par
quitte
exemple,
à ce que quelqu'un vende un jeu similaire aux petites choses oubliées au double du prix, puis que ça marche, peut-être tu as raison.
Peut-être. Ou alors la voie qu'ont choisi Thomas Munier et Fabien Hindwein, par exemple, ou même Frédéric Sintès, de se dire bah, c'est pas mon revenu principal, c'est pas de ça que je vis. Et en fait, je fais du jeu de rôle sur mon temps de loisir à côté.
Mais là, à ce moment-là, il faut aussi baisser les attentes par rapport au produit final, je pense.
Oui, ah oui, c'est pour ça, je pense que des gens comme Fabien fustigent ce qu'il appelle le fétichisme de l'objet. Oui. Ça va aussi avec toute une théorie.
Non, attends, le fétichisme de l'objet, c'est une critique cachée aux éditeurs. Là, nous, ce qu'on dit,
c'est même par rapport
arrêtez d'illustrer vos livres, arrêtez, ça coûte trop cher en temps. Soit Frédéric, qui fait toutes ces illustrations, le sait très bien, ça lui demande un temps extraordinaire.
Oui, ça va au-delà de... D'accord.
C'est pour nous, c'est ça, pas pour le fétichisme de l'objet, qui est une critique un peu consensuelle, si je peux me permettre, parmi les indépendants. Hein.
Ouais.
Bien sûr, c'est ultra cher de faire un livre façon 7e édition de L'Appel de Cthulhu, mais il faut qu'on... Là, on parle de nous. Arrête, peut-être qu'Innomable ne sera pas illustré, parce que soit je paye quelqu'un, soit j'essaye de me mettre au dessin, puis ça me prendra des années pour arriver à un résultat potable.
Puis si tu dois payer quelqu'un, bah du coup...
Ça change, voilà, on se plante nouveau avec nos marges. Donc.
Pour moi, le fétichisme de l'objet va jusque-là. Quand Fabien parle du fétichisme de l'objet, ça englobe cette critique-là aussi. C'est-à-dire l'idée que ce qui compte, c'est avant tout la partie qui sera produite et les règles qui vont y conduire. Et que dans le fond, on n'a pas besoin de même d'illustration, oui, sauf si c'est nécessaire à la partie. C'est ce qu'il y a des illustrations. Par exemple, moi, je prends l'exemple de Vadémécom. Dans Vadémécom, les illustrations, c'est quoi? C'est des échiquiers avec des pièces placées dessus.
Ce sont pas nécessaire des illustrations, ce sont des diagrammes de jeu.
Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Là, du coup, c'est vraiment nécessaire, et pour le coup, ils sont indispensables. C'est, voilà. Pour moi, si tu te dis... tu critiques le fait que les auteurs sont pas suffisamment payés avec les éditeurs, etc. Si tu fais ça, et que tu dis, moi, ce que je vous propose, c'est un modèle où ils sont mieux payés et compagnie, et c'est de l'indépendance et machin, et qu'au final, tu te rends compte que ces mêmes indépendants que nous sommes se réunissent autour des micros de la cellule à un moment donné et disent bah, finalement, notre moyen, il n'est pas économique et tout. Pour moi, c'est quand même un échec. Moi, ce que je voulais... Attends, oui, les auteurs gagnent plus, dit Flavie en dehors des micros. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Fly, mais c'est quand même un échec. Parce que l'objectif, c'était pas qu'ils gagnent plus. C'était qu'ils gagnent leur vie.
Mais là, en plus, ils gagnent. Enfin, il faut quand même pas oublier que là, en plus, t'es auteur, mais t'es aussi éditeur. Donc, est-ce que l'auteur au sens strict gagne plus? C'est pas clair, parce qu'à ce moment-là, tu devrais additionner ce que gagnait l'auteur avant plus que gagnait l'éditeur. Puis, en tant qu'indépendant, tu devrais gagner en tout cas ça.
Ouais, c'est juste que en ce moment, c'est une discussion qu'on a énormément avec Romaric, en fait, parce que du coup, évidemment, bah, on discute pas que dans les micros de la cellule. On réfléchit beaucoup, et oui, bah, c'est un modèle tout neuf aussi. C'est du coup, faut y réfléchir pour le faire évoluer, quoi.
Tout neuf, l'indépendance aux États-Unis a commencé, en tout cas, il y a 14-15 ans. Puis il y a eu des indépendants avant qu'on sache que ce soit des indépendants.
Oui, mais 14-15 ans, c'est pas
énorme. Mais sur 40 ans de jeu de rôle, ça commence à devenir non négligeable. Donc,
bah oui. Ouais.
Donc on peut plus tellement se dire. Ah, c'est peut-être gentiment le moment d'arrêter de se cacher derrière « Ah, c'est encore tout nouveau, tout est possible. » Là, on a beaucoup de rapports. Fabien fait un rapport, toi, tu fais des rapports. Frédéric fait des rapports.
Morgane aussi.
En géométrie, Morgane. On fait des rapports.
Ah, mais... de l'état de Gaël, ouais. Voilà, Cassé Okidam. Les ouais. États-Unis aussi en font. Voilà, on commence à avoir des... un aperçu puis, assez large.
On voit aussi que voilà, en termes de ventes et tout, on est plus autour de entre 100 et 300 ventes dans les deux premières années que les chiffres annoncés de 3000 exemplaires vendus par l'appel de Cthulhu ou par les suppléments de Donjons et Dragons. C'est voilà, on commence aussi à avoir une idée de vraiment ce que c'est qu'une vente pour un livre de jeu de rôle. Ça c'est clair.
Oui.
Une des raisons aussi qui fait qu'avec Févien on discute beaucoup de ça, c'est que la situation est tendue en ce moment. Très tendue pour moi. Enfin, c'est difficile en ce moment, en fait.
Parce que tu as refait toutes tes impressions, parce que tous tes bouquins sont épuisés.
En fait, pas vraiment. C'est parce que j'avais escompté que je gagnerais de plus en plus, en fait. Que le catalogue gonflant, je pourrais vendre de plus en plus, en fait, et donc avoir un chiffre d'affaires croissant. C'est pas le cas. Mon chiffre d'affaires est constant. Il n'évolue pas. Mais mes stocks, eux, ils gonflent. Ils évoluent. Mes coups, en fait, évoluent.
Parce que tes couilles, c'est pas la même chose.
J'ai dit mes couilles. Mes coups de production, ils évoluent. Et donc, du coup, c'est chaud, en fait. C'est méga tendu. Et là, j'en suis à me poser la question. Ce que je disais à Fly, c'est moi, en fait, là, si dans un an ou deux, on va dire, allez, je me donne encore 2 ans, si dans 2 ans la situation n'a pas évolué, je ferme tout. J'arrête tout, moi. J'ai pas les moyens comme ça de continuer. Il va falloir à un moment donné que je gagne vraiment ma vie pour mettre de l'argent de côté, pour payer les études de mes enfants, pour m'occuper. Parce que il y a aussi que notre coût de la vie a augmenté avec Flavie parce que on a des enfants et c'est plus la même quoi. On est plus, je suis plus célibataire.
On a des bébés chats, vous pouvez mettre un like.
Voilà, c'est et du coup ça devient chaud. Ah, donc c'est aussi ça qui fait que, et là j'entends des retours de gens qui me disent nous on a essayé ce modèle là c'est pas terrible, enfin ça commence à sentir le roussi, donc il faut, enfin c'est aussi pour ça que ce que je ressens c'est un sentiment de détresse et que j'invite vivement les auditeurs à avoir des comportements en tant que consommateur. Après, si là ils m'écoutent et puis ils se disent non mais je te donnerai pas un copec, pauvre connard, t'es qu'à t'es rien qu'un gros connard et puis à toi et tes petits copains des petites choses oubliées, j'ai rien à foutre. Bon c'est bien, ils sont droits dans leur basket.
Bien sûr, ils n'ont pas acheté.
Ils n'ont pas acheté ce qu'ils veulent pas acheter. Mais si là en ce moment il y a des gens qui nous écoutent, qui aiment ce qu'on fait, ce qu'on produit et qui n'ont pas encore mis la main au portefeuille ou même au like ou au clic ou au partage tout simplement sur Facebook. Moi je ne le fais jamais dans les podcasts de la CU, je n'incite jamais à donner, jamais à mettre des étoiles. Darky me gronde souvent pour ça parce qu'il dit mais à la fin de chaque podcast tu devrais dire comme tous ces youtubeurs qui disent abonnez-vous à ma chaîne YouTube, faites des dons et compagnie, tu devrais faire ça à chaque fois. Je ne le fais pas parce que j'estime qu'il y en a marre, mais il y a un moment donné si là il y a des gens qui derrière leur casque se disent tiens j'ai de l'argent, qu'est-ce que je pourrais faire avec et qui nous aiment bien, c'est peut-être le temps d'acheter les jeux, d'aller voir au moins même
la tirelire
si vous... non mais même s'ils n'ont pas d'argent mais qu'ils fassent des likes sur Facebook ou sur Google+, qu'ils partagent au moins. Ça coûte rien de partager, je veux dire, un clic, c'est rien du tout. Qu'ils partagent au moins. Sur les podcasts de la cellule, vous êtes des milliers, enfin, vous êtes un millier au moins d'auditeurs réguliers. On poste un podcast sur Facebook, on a combien de partages? 3. Je veux dire, après, faut pas s'étonner non plus que les indépendants meurent et que du coup, par contre, la 9e édition de l'Appel de Cthulhu, vous l'aurez, vous inquiétez pas les gars, il n'y a pas de problème. Hein.
Mais bon, maintenant, avoir fait des tests ces derniers temps sur Facebook, ça m'a beaucoup... Parce que j'avais du temps, j'étais en arrêt de grossesse. J'ai fait des tests sur Facebook pour voir, en fait, quand je publiais un article ou un podcast sur Pédagofly, j'ai fait des tests pour voir ce qui marchait. Il y en a, j'ai pas mis de photos. Il y en a, j'ai mis des photos qui avaient vraiment un gros rapport. J'ai mis des photos amusantes. J'ai mis des photos avec des chats qui font leur toilette. J'ai mis plein de choses. J'ai fait vraiment plein de tests.
On a constaté que le chat qui monte son cul et qui fait sa toilette, ça fait
des partages. Et en faisant sa toilette, il a été vachement partagé.
C'est scandaleux. Enfin, c'est... Enfin, je sais pas.
Du coup, attendez-vous à ce que je mette des trucs absolument absurdes, parce qu'a priori, ça marche.
Moi, je suis pas prêt à faire ça. Tu vois, Flavie, elle rigole, ça la fait marrer et tout. Moi, je suis pas prêt à faire ça. Je suis pas
La prochaine fois, peut-être une photo de boobs pour la maîtresse, je sais pas.
Je suis pas prêt à faire ça. Je suis pas prêt à faire ça.
J'ai même publié une photo, une vidéo avec un renard qui faisait sa toilette dans des feuilles et ça a été repris incroyablement. Je veux dire, liké, des commentaires et tout. J'étais là, vraiment,
les
renard.
C'est génial, mais.
Bah ouais.
Mais effectivement, c'est pas notre créneau.
Non.
Remarque, juste une question. Tu dis qu'il y a 1000 auditeurs de la cellule.
Oui. Si tu en crois des téléchargements.
Les téléchargements, mais parce qu'on n'a pas non plus les résultats de.
On n'a pas les résultats via iTunes.
D'accord.
Donc on peut supposer que c'est.
Tous les gens qu'on connaît écoutent par iTunes et personne ne vient par le blog. Dans les gens qu'on connaît. Alors que les gens.
Vous connaissez, moi, je télécharge toujours directement depuis le site. Mais bon, c'est anecdotique.
Ouais, on en connaît un.
Bravo!
Je te paye une galette des rois du coup!
Mais est-ce que tu tables sur donc, ta clientèle potentielle sur ces 1000 personnes?
Comment ça?
Tu dis, ok, il y a 1000 auditeurs de la cellule, je dois vendre 1000 Sens Renaissance? Ou la moitié de ça
tout.
En 1000?
Ah non,
comment
non,
tu
non,
utilises ça pour
pas
évaluer ton marché? Est-ce que tu le fais ou même pas? À ce moment-là, pourquoi tu dis que il y a 1000 auditeurs, achetez nos jeux.
Mais c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit 1000 auditeurs, faites des likes. Il parlait des émissions sur Facebook quand il a dit ça.
Responsabilisez-vous.
Ok. Ma question est la suivante. Si on a 1000 auditeurs sur un podcast, combien est-ce qu'on peut espérer de ventes derrière?
Je crois que c'est pas la bonne question parce qu'en fait, c'est deux choses différentes.
Absolument, c'est deux choses différentes. Donc.
Rome a jamais relié les deux, en fait.
Mais est-ce qu'il faudrait peut-être pas. C'est dire que si on a 1000, tu vois, avec 1000 auditeurs, tu as les ventes que tu as.
Ouais, ok.
Donc peut-être il faudrait 100 fois plus, peut-être même exponentiellement plus, pour augmenter significativement les ventes.
Moi, mon appel, c'est plutôt porte plus sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est l'alpha et l'oméga de la promotion sur le net. Hein. Je vois pas comment.
Oui, absolument.
Voilà. Puis, on est d'accord.
Les réseaux sociaux, mais aussi les crowdfunding, puisque en soi, c'est lié aux réseaux sociaux, mais
oui,
l'événement crowdfunding permet le buzz, permet le partage, permet de motiver des gens à se dire si je l'achète pas maintenant, je l'aurai pas après ou à des moins bonnes conditions.
Je vais devoir vous laisser. Je dois aller chercher mon bébé chat à l'école.
Au revoir Flavie.
Ça vaut le live. Tout à l'heure.
Non mais c'est mieux qu'un chat. Ouais. Soren est mieux qu'un chat.
Merci pour lui.
Merci beaucoup pour lui. Mais c'est vrai que là, j'allais faire un truc sur la litière, je vais partir avant de
regarder. Vas-y, je pense que c'est bon.
Mais je vous encourage à ne pas partager des photos de Soren sur internet pour sa vie privée à lui.
De toute façon, il y en a pas.
Je vous invite à ne pas partager la photo de votre enfant sur Internet.
Il n'y en a pas sur Internet. Oui, la gendarmerie l'incite aussi, là, récemment. Depuis récemment, il y a un appel en fait, des gendarmes à ne pas le faire. Il y a plein de trucs qui se passent à ce niveau-là. Tu vois un petit peu ce qui m'agace. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des gens qui nous apprécient, mais... Ils ne partagent pas, ils ne likent pas sur les réseaux sociaux.
Ils n'ont peut-être pas les moyens, je ne sais pas.
Oui, peut-être, certainement. Mais tu vois, partager, liker, c'est pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ce que je sens, c'est que par contre, il y a d'autres choses qui bénéficient de partager de likes.
Ah oui, mais pourquoi ce serait désirable que tous ces gens partagent? Parce que ça va, en fin de compte, donner plus de ventes, c'est ça que tu dis?
Non, je pense.
Oui,
je pense. Alors, parce qu'en tout cas, ça augmentera la visibilité.
Mais j'ai fait ma petite expérience. Un podcast où les petites choses oubliées est cité garantit entre 0 et 1 vente immédiate.
N'importe lequel, le podcast de la cellule ou autre.
Il n'a pas eu 36, mais les ventes immédiates qui sont clairement attribuables à un événement particulier, c'est entre 0 et 1.
D'accord.
Donc, est-ce que le partager changerait franchement la donne?
Mais juste.
Alors qu'il y a déjà 1000 auditeurs.
D'accord, ok.
Par rapport à ça, le podcast dédicacé aux petites choses oubliées, il est arrivé avant sa sortie.
Oui, c'était un playtest.
C'était un playtest.
Donc, ça c'est vrai que c'est normal.
Peut-être ça, c'est quelque chose dans un sens.
Ça biaise ma remarque.
C'est une mention donc, que tu évoques.
Oui. Mais je ne sais pas si ça changerait énormément.
Ouais, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Enfin bon, moi en tout cas, ce que je pense, c'est que le pouvoir d'achat de tout un chacun est un peu comme un espèce de droit de vote.
Oui.
Et que dans le fond, bah voilà, c'est évident pour toi.
Ouais, c'est évident, ouais, clairement. Ouais.
Sylvie a une comparaison assez pertinente, je crois, en termes de marché de niche. Le jeu de rôle est un marché de niche, il y a peu de gens, vraiment, qui en font. Et donc, comme en histoire que tu as étudié.
Oui, je faisais la comparaison par rapport aux livres d'histoire suisse, donc des livres très spécialisés, puisque c'est vraiment un tout petit marché, mais c'est vrai que là, les prix sont... Voilà, ils sont exorbitants, hein, faut le dire. Un bouquin, c'est minimum 40, voire 50 francs suisses, minimum, même pour des petits. Mais voilà, c'est obligé, et puis tout le monde est d'accord avec ça, puisqu'on sait que bah, sinon, on ne les publie plus, en fait, ces livres-là. Et le pire, c'est dans l'histoire, c'est qu'en plus, le travail qu'il y a derrière pour les avoir écrits, il est subventionné, étant donné que c'est souvent des universitaires qui le font, et qui sont déjà payés. Donc même avec le travail de recherche qui est payé, le livre reste exorbitant.
Exorbitant, ouais.
Donc ça va dans le sens d'effectivement augmenter les prix des jeux. Après, on ne peut pas complètement faire fi des attentes actuelles non plus, je pense. Mais...
Ah bah, je pense que vendre un jeu à 70 euros, parce que c'est à peu près le prix de ces livres dont tu parles, non ?
Non, non.
Un peu moins, 40 euros, non, 50 francs suisses.
D'accord.
Ouais, c'est un peu moins, c'est 10% de moins, grosso modo.
Ok, parce que si tu vends du jeu de rôle... Bah, 50 euros, c'est... Moi, ça le fait, pour moi. Pour moi, ça le fait. Hein. Un jeu, si... Par exemple, une base... Une base de couverture cartonnée et compagnie, là, tu sais, la vieille base. Par exemple, je suis pas sûr, mais Knights, par exemple, le jeu de Simon et Colline. Combien il valait sur le crowdfunding et tout ça? C'était pas une cinquantaine d'euros? Je sais plus. Mais tu vois, par exemple, voilà, c'est typiquement, je sais pas si vous avez Knights en tête, chers auditeurs, mais vous voyez un peu ce genre de jeu. Je pense que tu le vends à 50 euros, ça choque personne. Hein. Les gens étaient prêts. Moi, je me souviens très bien d'avoir acheté des bases de vampires. Je sais plus combien les acheter. 300 balles, un truc comme ça. Hein, je sais plus. 300 francs à l'époque. Je sais plus. Là, j'ai pas les chiffres en tête. Et regarde Sébastien Sellerin aussi avec les 12 singes. Je crois qu'ils font des trucs qui sont assez chers. Genre 35 euros pour un livre au format A5 en noir et blanc. Là, il faudrait que je vérifie tous mes chiffres là, parce que je suis nul en chiffres. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Les chiffres, c'est vraiment pas mon truc. Donc, ça se trouve, je me plante du tout au tout. Mais il me semble que, voilà, c'est pas 50 euros pour un livre de jeu de rôle. Ça peut le faire, Sylvie. Ça peut le faire. Il y a des petites choses oubliées à 50 euros. Je sais pas.
Ça fait réfléchir.
Ouais.
Mais c'est vrai, peut-être que c'est quelque chose, des habitudes qu'on doit changer, remettre en question. Je sais pas.
Comment faire en sorte après c'est là c'est une question après de hauteur du prix. Moi j'en étais pas là dans mon coup de gueule de tout à l'heure, c'était vraiment sur les réseaux sociaux, les partages des trucs qui coûtent rien. Partager un podcast, liker un podcast, ça coûte rien fondamentalement. C'est de ça dont je parlais moi tout à l'heure sur mon coup de gueule. Après si ouais bah l'achat évidemment quoi. Après c'est si j'ai bien dit si vous avez de l'argent. Si vous avez de l'argent et vous savez pas pour le jeu de rôle, bah pouvez, enfin ça et que vous aimez par ailleurs les productions des indépendants, bah ouais, si ça vaut le coup de les acheter. Enfin c'est clair et net. Mais moi je suis sûr qu'il y a des gens qui les achètent pas parce qu'ils ont la flemme d'aller payer sur internet. Tu vois, alors qu'ils l'achèteraient peut-être s'ils l'avaient en physique dans un magasin devant eux. Enfin, on sait jamais hein, les dynamiques à l'œuvre dans la tête d'un consommateur. Hein, c'est très très complexe. Donc voilà. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur ce bilan ou on a fait le tour ?
Non, je crois que là on a déjà. C'est beaucoup de choses.
Ouais, on a dit beaucoup de choses. On a bien étendu à d'autres.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce bilan était aussi l'occasion de parler de choses. Bah oui, le modèle de l'indépendance, est-ce que ça tient le coup? Comment est-ce que vous avez considéré votre travail et vos objectifs? Ça, c'est intéressant aussi. De voir qu'il y a une certaine forme de réalisme, de pragmatisme dans votre démarche.
Non, je crois que c'est déjà super bien. Merci de nous avoir donné l'occasion de débriefer devant 1000 auditeurs de la cellule.
Alors après, tous les podcasts ne sont pas égaux en termes d'audience. Mais bon, voilà. Ouais. Merci à vous d'être venu nous présenter en tout cas ces résultats. Je vais suivre les conseils de Darky. Je vais vous dire likez ce podcast, partagez ce podcast, mettez des étoiles sur iTunes, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je sais pas. Mettez des banderoles sur vos t-shirts imprimés.
Achetez nos jeux, offrez vos jeux à vos grands-mères, vos enfants, à vos neveux, voilà.
À votre chat.
Et photographiez-le sur Facebook. Pour que ça fasse du like et de la vue et compagnie. Non, portez-vous bien et surtout, jouez bien, c'est ça qui compte. Allez, à bientôt tout le monde. Salut.
Salut. À bientôt.